cette semaine dans le balado. On retrouve une vieille connaissance qu'on voudrait éviter. On fait de nouvelles connaissances qu'il vaudrait mieux éviter. Et on fait la connaissance de quelqu'un qui va nous aider. Bienvenue à mon ciné-balado, accompagné de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Alors, j'étais concept cette semaine.
Ouais, c'est ça, j'étais là. Qu'est-ce que tu vas dire pour tout stocker? Mais...
Ou j'aurais pu aussi dire trois fois la même chose.
Ça aurait
aussi à propos.
Hey, quel mystère.
Donc, avant de faire ce rattrapage de notre semaine de congé, on a une commandite.
T'étais pas en congé tant que ça, toi, finalement.
Moi, non.
On y reviendra.
Oui.
Mais oui, cette semaine, l'épisode est présenté par la microbrasserie de l'île d'Orléans, qui a été fondée en 2006 et qui est située au cœur du village de Sainte-Famille, donc à seulement 15 minutes de Québec. On peut y retrouver un pub moderne d'inspiration rustique qui rappelle l'histoire de l'île d'Orléans. La terrasse couverte avec vue sur le fleuve et la côte de Beaupré se veut une halte à découvrir, surtout pour les amateurs de vélo notamment. L'île d'Orléans est très fréquentée par les cyclistes. On peut aussi déguster le généreux menu bistrot qui va juste bonifier votre plaisir. Mais ce qui distingue les bières de la micro de l'île d'Orléans, ce sont les saveurs surprenantes issues d'une eau douce de source incroyablement pure, des fruits produits localement et de l'humeur du vent. Mais oui, sur l'île au vent. Elle vous offre un peu d'histoire parce que chaque anecdote ou chaque petite aventure qui est racontée sur les canettes bien, est authentifiée. Hein. Ce n'est pas des bobards que l'infographe a juste ajouté pour son plaisir. Là. C'est des vraies histoires de l'île.
C'est pas de l'intelligence artificielle.
Non, c'est pas de l'intelligence artificielle. C'est du vieux keb. La microbrasserie possède par-dessus tout le goût d'ici, ce qui sait plaire aux adeptes. Découvrez les différents points de vente dans toute la province. Ben oui, même si vous ne pouvez pas venir sur place, vous pouvez quand même boire la microbrasserie de l'île d'Orléans. Visitez le www.microorléans, avec un S, hein, orléans.com.
Excellent.
Puis là, je pense que je vais le faire à un moment donné. M'en boire une bière pendant qu'on enregistre.
Ben,
là, mais là... J'allais dire, il est tôt, là. On est un peu plus tard que d'habitude, même. J'aurais pu. Mais j'ai pas dîné encore. Je trouvais ça un peu rêvé de
mais
dîner sa Scotch Ale.
Là, pour avoir fait quand même beaucoup d'émissions de radio comme chroniqueur invité ici et là.
Ouais.
Je l'ai souvent vu, ça, la petite bière.
Même l'émission du matin?
Pas le matin, okay. Mais en après-midi, le retour, là. Oui.
Ah ouais, OK.
Ouais, ça gêne
pas. Ben, c'est vrai qu'en plus, t'es souvent invité jeudi, vendredi, là. Fait qu'ils sont en fin de semaine quand tu parles de cinéma, là. Ouais.
Alors, ben oui, on a fait une petite pause la semaine dernière.
Ouais.
Les deux, on a connu des semaines très, très différentes l'une de l'autre.
Oui, toi, c'est ça.
Moi, j'étais supposément reposé. Je ne sais pas si ça a été le cas finalement.
Ben quand même, là, j'étais en famille. Mais ça aidait parce qu'on était en famille élargie dans un chalet, un peu de lac, un peu d'ombre, s'occuper de mon enfant et tout. Fait que c'était bien. Fait que j'ai pas vu beaucoup de films. J'avais écouté... Il y avait Internet quand même, là, c'est pas un shack, là, mais j'ai juste écouté Liverpool parce que on y viendra. Finalement, j'ai pas pu rencontrer Manon Briand qui nous offre tout stocké cette semaine. Toi, oui, mais j'aimais ça regarder d'autres films. Je sais que c'est plus La Turbulence des Fluides, son principal, mais j'avais objectif d'écouter les deux. Finalement, j'ai pas le temps. Fait que c'est comme le seul film que j'ai écouté dans toute ma semaine.
Bon, ben, c'est bien correct. Moi, je m'attendais à écouter plus de films, mais finalement...
Ouais, t'étais au TIFF, toi.
Ouais moi, je reviens du TIFF, du Festival du film international de Toronto, fait que j'étais un peu encore sur le décalage de Toronto.
Ouais, non. C'est ça. Mais c'est vrai que tu m'écrivais le soir, puis des fois, je me disais, hey, je sais pas, il est en même heure, finalement.
J'aurais plus de l'effervescence du festival, parce que, évidemment, c'est une première pour mon ciné, là, qu'on couvrait ce festival-là, fait que je savais pas trop du tout à quoi m'attendre. C'est sûr que j'étais pour voir des films, parce qu'il y a, quoi, il y a comme 200 films qui sont projetés.
Ouais, il y en a plein en même temps.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr, t'as deux gros cinémas, là, le Scotiabank puis le TIFF Lightbox, qui ont genre 16 écrans chacun. Là,
ah ouais, OK.
Fait que c'est
je savais pas que le TIFF Lightbox était gros comme ça.
Ouais.
Je savais qu'il était iconique du film d'auteur et différent et tout, mais...
Fait que beaucoup d'écrans, donc beaucoup de films qui jouent en même temps. Alors, des films... pour la presse, des projections de presse, mais aussi des films qui sont disponibles pour le public et tout ça. Fait qu'un menu fort chargé, mais évidemment, le but premier, c'était un peu d'aller chercher des entretiens, un peu comme on le fait dans le cadre d'UniFrance. Là. C'est pour ça que des fois, on a...
Ouais, pour le magazine.
C'est ça.
Beaucoup, ouais.
Là, finalement, on a réalisé que sur place, c'est pas tant... des possibilités d'avoir des
c'est plus des tapis plus rouges, hein?
C'est ouais, c'est ça. C'est vraiment plus glamour. On n'est pas dans un showcase comme UniFrance. Fait que tu... Les médias y ont accès, mais c'est avant tout pour faire défiler les vedettes, créer des buzz et tout ça, en espérant là, placer des pions pour la course aux différents prix pour l'hiver. Mais à ma grande surprise, les tapis rouges pour la presse, dont j'étais accrédité quand même, c'est assez accessible. Fait que j'ai eu la chance d'en couvrir quelques-uns, à mon grand étonnement. Puis je dois avouer que j'ai vraiment aimé ça. Là,
ah ouais?
T'as vraiment une dose d'adrénaline.
T'es-tu comme un peu gêné ou t'osais
non.
Dire...
Ah non, ça me gêne pas.
Hey, you!
Ben, tu sais, on reste poli quand même. Mais oui, effectivement, écoute, j'ai eu la chance de poser une question à Hugh Grant.
C'est ça. Parce que généralement, mais t'as pas 15 minutes avec.
On a une ou deux questions max. Là. Puis écoute, ce que j'ai appris, c'est que même si t'as la permission d'assister à un tapis rouge pour un des films, c'est pas certain que tu vas réussir à parler à l'équipe parce que souvent, ils arrivent en retard. Puis, pour donner une petite idée, donc généralement, on a à peu près 30 à 40 médias vraiment installés sur une pastille, un à côté de l'autre, là, assez entassés. Au début, tu as les photographes de presse, télévision, puis après ça, les médias un peu moins connus. Fait que c'est sûr que moi, on est plus vers la fin de la ligne au début, ouais. Là, donc tu comprends.
Mais c'est peut-être que tu vas avancer d'une place par année. Là, peut-être dans 19 ans, mon ciné va être le prime. Là. Tassez-vous.
Ça serait hot. Fait que là, évidemment, c'est ça. Fait que l'équipe, généralement, arrive en retard. Quand même, ils sont assez généreux, les comédiens. Ils vont prendre le temps. Mais à l'autre bout, c'est que le film doit commencer à une heure précise.
OK.
À un moment donné, s'ils prennent trop de temps au début, ben là, c'est nous autres qui va écoper. Fait que ça arrive des fois que bye-bye, ciao, ils passent devant nous, comme c'est le cas avec Jacob Elordi et Daisy Edgar Jones, qui étaient là pour un film. Puis j'étais là principalement pour eux, puis je les ai vus à un moment donné, ils sont juste passés, puis ah, on doit y aller, bonjour, bye-bye.
Puis ça représente, c'est long comment, cette espèce de tapis-là, vous êtes une trentaine, c'est comme un 100 mètres? Ou...
Écoute, je pense que c'est plus petit que ça.
OK. Très entassé. Puis là, il y a beaucoup de photographes au travers de ça, là, ouais.
Ouais, ben c'est que les photographes sont vraiment comme dans un enclos à eux. Fait que non, c'est on est collé épaule à épaule, là.
Fait que toi, tu t'enregistres sur ton cell les deux, trois questions, puis tu vas...
La plupart des sites, là, des influenceurs qu'on trouve, podcasters et autres YouTubers, là, fait que c'est, généralement, c'est ça, là. Ils ont leur petit cellulaire, quelques ont une petite caméra, là. Mais c'est quand même cool parce que j'ai sympathisé avec quelqu'un, un journaliste d'Australie, deux Tunisiennes mais qui demeurent à Dubaï, deux Français qui sont un peu plus âgés, eux autres. Mais c'est un journaliste, son caméraman, qui travaille à Los Angeles pour Canal+, mais d'origine française, mais ça fait comme 20 ans qu'ils sont à Los Angeles. Fait que tu rencontres plein de gens comme ça, c'est quand même sympathique. Il y en a qui jasent plus que d'autres. Je me suis signé d'amitié avec un Philippin qui demeure à Londres, qui était super extraverti, très sympathique.
OK.
Fait que tu t'en... C'est ça. Fait que c'est quand même une petite fonte. Fait que certains visages, tu recroises, d'autres non. Mais c'est surtout, c'est ça. Le rush des attentes, parce que ça peut prendre des fois comme une heure, là, quand ils t'appellent pour telle heure, mais là, après ça...
Fait que souvent, c'est le matin, tu avais des visionnements de presse.
Ouais. Puis les tapis rouges commencent d'habitude dans le milieu d'après-midi. Okay.
Fait que l'après-midi, t'es plus dans un courriel, puis dans qu'est-ce que je peux avoir, puis préparer ta journée du lendemain aussi.
Ouais.
Puis...
Parce que dans le fond, la veille, on a l'appel pour les tapis rouges, donc lesquels on voudrait couvrir. On envoie nos soumissions, nos demandes, puis le lendemain matin, on a la réponse, fait que t'es approuvé pour tel truc. Fait que là, tu planifies ta journée en conséquence. Puis effectivement, les matins, j'en profitais pour aller voir un film. Donc, j'ai eu la chance de voir Anora, La Palme d'Or, que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien hâte que tu le vois et qu'on en parle.
Ouais, ça sort dans un mois à peu près.
Ouais. J'ai vu Night Bitch aussi, qui va sortir dans le temps des fêtes.
Ouais.
Comédie grinçante avec Amy Adams, dont il y avait un grand buzz.
Ouais, puis sur comme le postpartum, là, puis juste après l'accouchement et tout. Là.
Ouais, ouais. Ça risque de faire bien jaser, mais j'ai apprécié aussi. Puis un qui, je pense, a laissé beaucoup de gens indifférents, c'est The Return, avec Juliette Binoche puis Ralph Fiennes, que je sais même pas si ça va sortir ou si ça va être la plateforme.
Pas,
je pense qu'il n'était pas encore acheté, là, mais c'est sur le retour de d'Odysseus, qui revient après la guerre de Troie. Puis
OK,
qui retrouve
c'est dans
Pénélope.
Les mythes.
Ouais, c'est ça. Là.
Attends, j'ai une question vraiment niaiseuse, mais l'Odyssée, c'est juste des légendes, ça? C'est pas... J'ai dit les mythes, mais c'est pas...
Ben, on sait pas.
OK.
Parce que Est-ce que c'est inventé ou inspiré d'eux? On n'a pas de preuves historiques, mais okay. Ça fait partie de la tradition orale. Donc, j'en sais pas plus. Fait que bref, ça a été bien, bien excitant tout ça. Puis, surveiller justement nos réseaux sociaux parce qu'on va ajouter.
Ouais, nos réseaux sociaux qui vont exister de plus en plus. Là,
ouais,
parce
c'est ça.
N'existait pas, mais oui. C'est un peu le. C'est parce que. Ça, pour les intéresser, on s'est longtemps posé la question, on se le faisait demander des fois pourquoi on n'a pas de médias sociaux, mais on était beaucoup axé parce qu'à la base, c'était un magazine papier, tu sais. Puis, fait qu'on était comme, c'est correct, nos exemplaires, pas se vendent parce qu'il est gratuit, mais trouve preneur, fait qu'il n'y avait pas besoin de tout ça. Mais à un moment donné, on a créé, en fait, quand c'était le magazine du CLAP, là, c'est devenu le magazine Mon Ciné, puis là, on existe en tant que entité provinciale, tu sais. Puis la demande, puis amener la question s'est posée pour générer du trafic sur le monciné.ca. Plus on fait d'entrevues, le podcast entre autres, plus on crée du stock juste pour le site parce que le magazine il est imprimé 4 fois par année. Ouais. Fait que, par exemple, tu reviens du TIFF, mais le magazine septembre, octobre, novembre, il était déjà sorti. Fait qu'il y a beaucoup de films. Anora, par exemple, ça sort en octobre. Fait que, tu sais, on a beaucoup d'exclus qui se ramassent sur Internet parce qu'on les a pas à temps pour le magazine papier. Fait que de ce pas, on est en train de faire les médias sociaux pour pouvoir mousser plus ces intéressantes conversations et entretiens, entrevues et aider le balado aussi, etc. T'sais.
Donc, vous pourrez voir mes questions posées à Hugh Grant. C'était quand même assez
content. Tu parlais de la fois où il s'est fait pogner par des policiers undercover.
Sinon, j'ai parlé aussi à Mikey Anderson, qui est dans Anora, justement, la comédienne, qui était fort sympathique. Et Julie Delpy aussi.
Ah oui? Fait que ça, j'étais quand même... Elle parle français?
Oui, elle est française.
OK, j'étais comme plus sûr tellement et tout.
Oui. Et puis, j'ai même pu lui dire que sa trilogie Before Sunrise...
Tu dois être le premier à lui dire.
Sûrement pas, mais... Ouais, je pense que ça lui a fait plaisir à me remercier. Mais pour moi, je pense que c'était plus elle que j'étais plus nerveux. Parce qu'évidemment, ces films-là représentent beaucoup pour moi que comme Hugh Grant, c'est une grande vedette, mais j'étais content, mais ça ne change rien. Ça. Là, ultimement, ça ne représente rien pour moi. Là, fait que
Notting Hill t'a donné aucune émotion.
C'est des films que j'apprécie, mais ça représente pas... la même chose. Fait que bref...
Est-ce que... as-tu compris quand tu as parlé en français ou c'est un classique de français qui a pensé que tu parlais en anglais à cause de l'accent québécois?
Non, j'ai dit bonjour, Julie, je pense, mon ciné de Québec, quelque chose comme ça. Fait que d'entrée de jeu, je lui ai dit que c'était
c'est québécois. Ça, puis là, il me semble dans ton horaire, parce qu'il y avait, par exemple, Berger de Sophie Deras, puis il y avait des films québécois quelques films québécois qui étaient présentés là-bas, mais tu les as pas couverts, j'imagine, parce qu'on va les revoir ici, finalement.
Et effectivement. J'en ai profité pour voir autre chose. C'est bien dit. Alors, parlant de festival, et allons dans les nouvelles, parce que c'est en même temps, pratiquement, qui chevauchait, c'était le festival de Venise.
OK, oui, j'ai rien noté.
T'as rien noté? Les gagnants, j'ai noté ça.
Ah, merci.
Parce qu'ils ont
remis des
prix. Grand gagnant, c'est The Room Next Door, le premier film anglais de Pedro Almodovar.
Ah ouais, OK.
Ouais, qui je pense qu'il y a comme une ovation de 17 ou 18 minutes, là, ce qui était absolument fou.
Je peux utiliser c'est-tu lui là qu'il y a deux colocs là ou une affaire pas colocs là mais
c'est sur je pense deux femmes qui ont une liaison là Julianne Moore et Tilda Swinton.
OK, c'est bon. Oui.
Puis c'est la relation
mais il y en a pas qui a un problème avec sa fille.
Sa fille, c'est ça. C'est le personnage de Tilda Swinton.
OK.
Qu'on comprend bien fait qu'elle, c'est ça. Je pense qu'il y a eu toutes sortes de problèmes. C'est avec ça.
Fait que je pense qu'il est déjà acquis là, pour ici, mais la date de sortie n'est pas annoncée.
Fait que, d'autant plus qu'il a gagné ce grand prix-là, c'est certain que ça va sortir sur nos écrans. Actrice Nicole Kidman dans Baby Girl, un autre film qui était présent au TIFF, que j'ai pas eu l'occasion de couvrir, parce que je pense que c'était le jeudi ou vendredi là, avant que j'arrive. Film érotique où Kidman joue une chef d'une grande entreprise qui va avoir une liaison avec un jeune stagiaire. Donc,
c'est chaud.
Ouais, c'est ça. Apparemment que c'est très hot et ça fait jaser parce que là, on est dans les rôles renversés où c'est une femme qui utilise son pouvoir pour obtenir un peu comme...
Mais Todd Haynes a fait un film l'an dernier un peu là-dessus, là, avec Julianne Moore, mais il était sorti sur Netflix, fait qu'il n'y a pas tant entendu parler, mais il y avait eu des nominations.
C'est pas le truc avec Natalie Portman?
Oui, exactement.
Ouais, là, c'est la comme... Attends, c'était-tu...
Je me souviens pas du titre de ce film-là. Là.
Mais
c'était comme un peu inspiré d'une histoire vraie. Là.
Oui, 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 mais c'était pas dans le monde des affaires.
Non. Je pense que c'était une enseignante.
Une enseignante, c'est ça, avec une élève, oui, c'est ça. Avec
un
jeune
élève, oui, c'est ça. Puis là, dans le fond, ce qui arrivait, c'est que c'est le film dans le film. Parce que je pense que réellement, c'est inspiré d'une histoire vraie.
Tout à fait, oui.
Mais dans le film, c'était comme s'il allait faire le film, fait que Portman était la comédienne qui allait rencontrer le personnage de Julianne Moore pour s'inspirer, pour etc.
Mais Baby Girl, je pense, fait plus écho à un film peut-être 94-15 dans ces années-là, Disclosure, avec Demi Moore et Michael Douglas. Okay. C'était un peu la même affaire, Demi Moore.
La grande époque des thrillers érotiques. Là.
Oui, oui. Puis c'était la grosse période de Demi Moore où, cette fois-ci, elle utilisait Michael Douglas, donc c'était un personnage plus vieux.
Okay.
Mais c'était elle qui était en tête de cette compagnie-là, en tout cas, fait qui était la femme puissante, alors que là, on va avec un jeune, fait que bref, Baby Girl, probablement, j'imagine, du signe. Ah oui, c'était le 25 décembre, fait que ça va être
film de Noël. Ouais, ça, des fois, les 25 Oscars. Décembre, c'est les...
Sorties plateforme.
Là, ouais, fait que finalement, ben, plateforme dans le sens qu'étape par étape, fait qu'on va l'avoir le 25 janvier.
Donc, mais beaucoup de base, ça fait que devrait être Kidman à surveiller. Et meilleur acteur, c'était Vincent Lindon pour le drame Jouer avec le feu, drame français, où il joue le père d'un de deux garçons. Le plus jeune s'en va à l'université, tandis que le plus vieux s'en met encore à la maison, mais il va commencer à se radicaliser en ligne vers toutes sortes de mouvements d'extrême droite et tout ça. Puis là, il essaie de dealer avec tout ça. Fait que...
C'est drôle, Jouer avec le feu, parce que Philippe Lesage sort un film qui s'appelle Comme le feu.
Le feu est à l'honneur.
Ouais, c'est chaud, c'est dangereux.
fait que voilà pour Venise. Okay. Toi, tu avais noté quelques trucs aussi?
Ben, le décès de l'acteur américain James Earl Jones, qui est arrivé ce lundi 9 septembre. Puis il est mort à 93 ans. Puis ça nous rappelle qu'il a joué dans tellement de films et de voix et autres que c'est sûr qu'il a marqué tout le monde pour différents films. T'sais, moi, je suis de ceux que c'est vraiment Le Petit Champ de Sandlot où il faisait le monsieur à l'arrière. Toi, t'es plus dans la voix de Darth Vader. Moi, je suis plus la voix de Mufasa, mais en même temps, je l'écoutais en français quand j'étais jeune. Mais oui, c'est ça. Mais c'est sur la voix de Darth Vader aussi.
Mais la voix
intemporelle.
Iconique. Aussi pour Field of Dreams, justement. Aussi... Il jouait le méchant dans le premier Conan avec Arnold Schwarzenegger.
Moi, c'est ou Coming to America, moi. Aussi, le roi, je sais plus quoi, avec sa tête de lion. Là,
le père du prince Hakim, Eddie Murphy. Faut aussi dire que c'est la voix de CNN. C'est lui qui disait « This is CNN ».
Ah, je ne savais pas ça.
Alors, c'était le dicton iconique de CNN. Fait que, quand même un grand morceau, mais surtout, quand même à la télévision et au cinéma, ça... Sa popularité d'arriver sur le tard, c'est vraiment fin des années 70-80. Mais c'est un acteur accompli au théâtre.
Puis à la télé,
mais beaucoup au théâtre, qui a aidé à détruire beaucoup de barrières pour les Afro-Américains. Puis même, c'était un des premiers noirs à tenir des rôles traditionnellement joués par des blancs dans des pièces de théâtre, tout ça. Parce que je regardais un petit peu les hommages à CNN, entre autres, et tout ça. Fait que beaucoup d'artistes afro-américains se soulignaient tout ça. Fait que tout cet héritage-là qu'il a laissé à eux.
Puis là, la mini-politique, polémique.
Pardon. Polémique, oui, il y en a.
C'est, oui, c'est parce que dans le fond, il est un des rares à avoir un EGOT, donc un Emmy, un Grammy, un Oscar, puis un Tony. Puis oui, il y a un Grammy parce qu'il a sorti un album de spoken words des années 70. Là, fait qu'il avait gagné un prix pour ça.
Ben oui, parce qu'il est spécial, je ne sais plus. Mais c'est un... à moi que tu allais dire, mais...
Vas-y.
Ben, c'est un beg.
Ah non, c'était pas ça.
Oui, c'est ça. Fait qu'il a bégayé longtemps. Puis c'est un étudiant de théâtre qui a réussi à sortir de ça.
Je connaissais un beg puis qui était... Ben, qui est chansonnier.
Mm-hmm.
Puis lui, il dit, quand je chante, c'est comme, vu que c'est un peu appris par cœur, puis que je redis les mots, j'ai aucun problème. C'est plus quand je parle et tout. Mais non, c'est parce que son Oscar, c'est en 2012, il y a eu un Oscar honorifique pour l'ensemble de sa carrière. Là, les puristes du EGOT sont comme genre, mais tu sais, non, mais comme avec une astérisque. Parce que il est.
C'est pas pour une œuvre précise.
C'est ça, c'est pas pour un moment précis où il l'a gagné, c'est pour l'ensemble d'œuvres.
Ouais, je peux comprendre
l'argument. Il a donné un break, là, mais. c'est ça. Peut-être qu'il en a un, mais comme. Avec un petit astérisque. Mais bon, bref.
Mais oui, un grand morceau de la culture populaire, quand même, qui est décédé. D'ailleurs, c'est les suites de complications du diabète que je suis allé voir parce que j'étais quand même curieux.
On a entendu un petit peu sur le prochain Spider-Man?
Oui, moi,
prochain
oui.
film qui va être encore avec Tom Holland.
Oui.
Mais on change de réalisateur alors que John Watts sort finalement sur plateforme mm-hmm. directement à Wolf dans une semaine. C'est plus lui qui va réaliser ouais. les prochains. Ça va être le prochain du moins, Daniel Cretton. Ouais. Qu'on a connu dans Shang-Chi, littéralement, le réalisateur. Puis après, il avait été attaché au Avengers Kang Dynasty, dont la plug a été tirée récemment avec une refonte différente avec les frères Russo, puis le retour de
Robert Downey Jr.
Dans un personnage différent. Fait que là, je pense que
le prix de consolation.
J'ai l'impression que Marvel voulait quand même le garder. Oui. Dire, il y a de quoi pour toi. Shang-Chi 2 est pas de suite parce que là, c'est putain dans nos plans, puis pas de suite étant peut-être jamais. Fait que,
on risque peut-être de revoir plus dans le film des Avengers, effectivement.
Je pense que c'est ça. Il va falloir qu'ils réintroduisent, qu'ils nous remettent un peu du personnage de Shang-Chi, là, de Simu Liu, pour qu'on fasse oui, donnez-nous le deuxième parce que là, la fenêtre est un peu passée.
Puis il teasait,
c'était l'époque où il teasait sur tout. Là. Fait que là, c'était comme, puis il va y avoir une série télé avec là, sa sœur qui est rendue à la tête de toutes les Crazy 88, là, mais genre d'affaires de même. Puis c'est comme, c'est pas sur le bord d'arrivée, cette affaire-là. Là. Fait que, good for him. Il n'y a pas grand-chose, c'est-à-dire rien d'annoncé pour l'instant. Je pense que c'est les mêmes co-scénaristes là, que les autres qui vont être encore là. Puis on se souvient, ce qui est intéressant quand même, c'est que le dernier terminait pour réparer tous les problèmes de glitch temporel qu'il avait causé avec Doctor Strange, il assumait que plus personne se souviendrait qu'il est. Je pense que Spider-Man existe, mais personne ne sait que c'est lui,
Peter Parker.
Fait qu'il perd ses amis, sa blonde, tout. Ouais. Fait que ça terminait quand même tristement. Fait que j'imagine qu'on va repartir de là. On peut s'attendre à ça peut-être plus pour 2026, peut-être.
Ce serait la fenêtre, parce que ça va m'amener à la prochaine nouvelle.
Vas-y.
Qui concerne toujours Spider-Man, mais un autre Spider-Man, Miles Morales. Beyond the Spider-Verse.
Ah, l'animé, là. Ouais, c'est ça.
Donc la version animée par Sony.
Ouais, qui devait au début sortir comme 6 mois plus tard, puis qui ont décidé de mettre ça.
Ben là, il y a comme une grosse polémique, justement, qui est sortie sur les webs, sur les internets.
Sur la toile.
Oui.
la toile d'araignée, si tu comprends.
Quelqu'un est sorti comme quoi que le film serait repoussé à 2027.
OK.
D'une part, parce que 2026, ce serait le Spider-Man avec Tom Holland. Donc, je pense pas qu'ils veulent avoir deux Spider-Man la même année.
OK.
Et deuxièmement, c'est que Sony aurait scrappé quasiment tout le film puis recommencerait. Parce qu'il serait pas content ou qu'il y aurait des différends avec Phil Lord et Chris Miller, qui sont les scénaristes et producteurs de cette incarnation-là de Spider-Man, qui aurait des tensions entre eux. Fait que là, bref, quelques personnes de la production, dont quand même, je pense que c'était Chris Lord, qui ont démenti ça, qui a dit non, les trucs avancent bien, puis on soit les images, les séquences, mais il n'y a pas de démenti comme pour la date, en fait, là,
okay.
annoncée. Puis écoute, si c'est pour 2025, ils sont en retard déjà dans le marketing, là, parce que
ouais,
ça commence déjà, là, tout se place, puis tout ça, puis on a même déjà des bandes-annonces de films de 2025. Là.
C'est ça, à moins qu'ils n'iraient pas à l'été, puis qu'ils iraient
Noël,
vraiment à décembre peut-être. 2025, là, ils sont pas encore
non,
trop tard.
Mais tout ça fait suite que le dernier film, Across the Spider-Verse, avait eu quand même beaucoup de controverses dans l'équipe d'animateurs. Beaucoup d'animateurs ont quitté la production parce qu'ils trouvaient que c'était trop lourd comme condition de travail, qu'ils faisaient des 11-12 heures 7 jours semaine. Fait que ça a l'air d'être très intense. Qu'est-ce qu'il a tout simplement si on a décidé de prendre plus leur temps, prendre le côté des animateurs plutôt que des producteurs. Je pense que Miller puis Lord se montrait peut-être trop intense.
Ouais,
en tout cas,
peut-être, ou ce qu'on spécule, c'est que si ils sont pas encore fixés sur tout à fait le scénario puis où ça s'en va, ils sont toujours en train de travailler sur des choses pour rien puis dire « Ah non, mais là, finalement, c'est ça. Fait que là, scrap tout ce que tu fais, puis là, on part, mais là, vite, on a des échéanciers. »
Parce
que l'échéancier normal, il inclut pas des journées de 12 heures de travail.
Non, c'est ça. Puis je pense que c'était le cas un peu pour l'autre d'avant. Ils étaient un peu dans cette façon de faire-là qui frustrait beaucoup les animateurs. Parce que là, tout était pratiquement fini, puis finalement, on décide de faire d'autres choses, mais on repasse son autre avant. Fait qu'il capotait, d'autant plus qu'il voulait absolument tenir la date de sortie. Fait que bref, c'est la portion potinage Hollywood, là, mais ça va
être
sourire.
Mais on a quand même très hâte de voir ces films-là, parce que c'est dans les vraiment réussites de chez Sony.
Puis honnêtement, c'est 2027, ça va être long, 4 ans là, après l'autre. Là. Surtout qu'on nous laisse en plus sur un cliffhanger là, comme ça. Là,
oui, exact.
On veut voir la suite. Là. Fait qu'à suivre pour ce Spider-Man-là. Sinon, dans les suites annoncées aussi, apparemment qu'il y aura un sixième Ice Age.
Ouais, c'est Leguizamo qui s'est peut-être échappé,
on ne sait pas trop. C'était quand même une des franchises très lucratives des années 2000 pour Fox.
C'était Fox,
c'était leur studio.
Ah ouais, Fox Animation.
Ouais, Fox, okay. Ouais, je ne sais pas trop comment. C'était Blue Sky. Qui, évidemment, la franchise d'Ice Age appartient maintenant à Disney. Alors, j'ai l'impression qu'ils vont vouloir repartir tout ça maintenant que tout est bien en selle, cette fameuse transaction-là. Donc, on peut s'attendre à avoir du Ice Age dans les prochaines années. Ça sera pas ça.
Oui, il a laissé... bref, Leguizamo qui fait la voix de Sid.
Ouais.
Je ne sais même pas c'est quoi, là, c'est des animaux. C'est pas le mammouth, là, en tout cas, l'espèce de belette préhistorique, là. Qui travaillait là, en ce moment pour faire des voix ou je sais pas quoi. Fait qu'il est comme, puis là, il n'a pas voulu en dire plus que ça dans une interview générale. Là. C'était pas une interview sur le film, là, juste sur lui et qu'est-ce qu'il fait ces temps-ci. Là.
Donc, le cinquième film remonte quand même à 2016. Fait un petit bout. Toujours dans les suites, ben là, évidemment, Beetlejuice, dont on va parler de Beetlejuice.
Oui, il faut quand même... quand même eu un pas pire week-end.
Gros week-end, 100 millions et plus au box-office. Ouais, donc, 110, deuxième, moins 110. Alors, ce qui le place en deuxième position, puisqu'on avait parlé il y a deux semaines, là, tu sais... C'était Shang-Chi qui avait maintenant le record, qui avait le record
pour,
de septembre.
Le du Labor Day,
Donc, le plus gros... la plus grosse fin de semaine de septembre appartient à It.
C'est vrai. Mais de septembre, mais c'était pas... Ouais. C'était sorti plus tard que la fête du travail.
Oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, It qui avait fait 123 millions de dollars.
Le chapitre 1, ça.
Le chapitre 1. Donc, Beetlejuice maintenant est deuxième. Troisième, c'était It, partie 2.
OK.
91 millions. Puis Shang-Chi, 75 millions.
OK.
Fait que quand même ça. Mais évidemment, vu le succès monstre de Beetlejuice et ce côté nostalgique très payant, ben Warner ont tout de suite confirmé, je pense que c'était même dimanche, qu'ils donnaient officiellement le feu vert à la mise en chantier, en tout cas, d'une histoire, de trouver un scénario pour les Goonies 2.
Ah, OK.
Fait que ça, c'est quelque chose qui traîne depuis moins une dizaine d'années, que les rumeurs, puis oui, ça va se faire, puis on a l'intérêt, puis de la part des comédiens, de la part de Spielberg, mais on n'avait jamais de hockey officiel de la part du studio, mais là, semblerait-il qu'ils sont prêts à donner le go. Fait que juste à trouver l'histoire qui va satisfaire tout le monde.
Ouais, mais je comprends que c'est une machine financière, mais je trouve ça bizarre quand ça part de même, tu sais.
Ouais.
Ils n'ont pas dit « Hey, on a un bon scénario non, depuis un temps, puis on hésitait, mais là, c'est beau, on va de l'avant, on pense que les gens vont être au rendez-vous. » C'est comme « On le sait que les gens le veulent. À ce soir, on va trouver de quoi de pas pire à vous écrire pour avoir votre argent. »
Puis tu sais, ce sera pas étonnant que dans quelques mois, on va dire « Ah oui, ça va être décembre 2026, mais il n'y a rien encore de… »
Oui, c'est ça. Le marketing il est plus rapide que la production.
Tout à fait. Oui, c'est le monde à l'envers alors que…
C'est ça. Dans le fond, dès qu'ils ont Josh Brolin et Sean Astin, ils vont comme « Oui, c'est beau, tout est là. » Toutes les autres, on peut les remplacer, c'est pas si grave.
Ouais. Bien, avec Kiwi Kwan est quand même...
Oui, c'est vrai. Un petit surf là-dessus. Ouais.
Restons dans l'univers un peu de Beetlejuice. Beetlejuice, parce que Jenna Ortega, pendant qu'elle faisait sa ronde de presse pour la sortie du film, elle a mentionné qu'elle avait auditionné pour le rôle de Shani dans Dune.
Ah oui, OK.
Ouais. Donc, mais visiblement, elle ne l'a pas eu.
Non.
Mais elle faisait partie des comédiennes qui avaient été vues par Villeneuve et testées.
Eh ben.
Mais je pense que Zendaya. Non, ben, c'est pas un potin.
Non, je sais, c'est juste comme. OK. Genre, c'est un fun fact, là.
Tout à fait. Ouais. Mais tu sais, ça me fait toujours rire parce que ça peut être tellement différent d'avoir une autre comédienne dans le rôle. Tu sais, Zendaya, je pense qu'elle a été très bonne, mais ça aurait été autre chose que Zendaya.
Oui,
là,
c'est ça.
Fait que c'est quand même toujours fascinant de réaliser. Moi, j'aime ça savoir. Ah oui, tel comédien avait été auditionné, puis il pensait à lui, ou qui était finaliste avec l'autre, puis finalement, tu dis, je suis pas sûr que.
Comme un qu'on voit beaucoup, c'est différent, là, mais c'est The Office. Là, parce que The Office, c'est encore très gros émission de télé américaine et tout.
Puis ils font reboot là, qui semble être controversé un peu.
Ouais, qui est comme la suite et tout, là, etc. Mais ouais, c'est ça, mais comme c'est encore super gros sur Internet, c'est encore revisité, je sais plus sur quel. plateforme C actuellement révisionnée à fond, puis tout, il y a beaucoup de memes, et etc. Fait qu'on voit souvent les audition tapes où tu avais Seth Rogen, puis du monde de même qui ont auditionné pour les différents rôles, là, toutes les Adam Scott, mettons, à la place de John Krasinski, des affaires de même. Je me demande si même, j'ai un blanc, mais lui qui fait Dwight, là, je m'excuse, j'oublie son nom, là. Je pense qu'il avait auditionné pour le rôle de Jim aussi, puis que finalement, mais auditionne donc pour l'autre, puis etc. De Michael Scott aussi, là, Steve Carell, il y a bien du monde qui l'ont aussi. Là. C'était comme, ben on va amener plein de monde drôle, puis on va voir qu'est-ce qui fit pour le rôle, qui joue de telle manière, puis aussi qui va fitter avec qui.
Oui, tout à fait. Alors, c'est tout un long processus, tout ça. Ouais. Le casting, mais toujours fascinant.
C'est ça. Fait que oui, effectivement, voir des fois, ça ressort là, des vieux audition tapes des premiers Batman qui sortent, puis des affaires de même. Là.
Ah, puis bon, ben restons aussi dans l'ordre de la très petite nouvelle, parce qu'on parlait de Dune et Jenna Ortega. J'avais noté aussi que Denis Villeneuve, qui est de passage justement à Toronto, au TIFF, parce que mardi, j'étais sur mon retour, mais lui, il faisait une projection double de Dune 1 et 2, plus suivi d'une conversation.
Oui, c'est ça, une espèce d'affaire de 6 heures, 7 heures.
Oui, c'est assez intense comme journée. Ben, il a quand même parlé que le travail progressait sur Dune Messiah, mais que ça ne sera pas du tout une trilogie. Alors, ça ne sera pas conçu comme ça.
Okay.
Vraiment, son adaptation de Dune se termine comme celle au cinéma. Et vu que le roman, la suite, se passe une dizaine d'années avec les personnages un peu plus âgés, fait que j'ai l'impression que ça va être vraiment ça, la trame. Le Dune 2, partie 2, va se terminer avec Paul qui part à la conquête. Ouais. J'ai l'impression que Dune Messiah va probablement juste commencer 10 ans plus tard. Ta tête de l'Empire Galactique.
Oui, mais de la manière qu'il parle aussi, je pense qu'il veut comme peut-être même changer un peu l'esthétique et ses affaires-là.
Ouais,
là,
c'est
peut-être
ça,
pas la DA comme telle, mais peut-être plus dans la photographie puis des affaires de même qui a un peu un point de rupture puis que c'est autre chose.
Ouais.
Il semblait dire aussi que lui, il n'y a pas de problème si d'autres prennent le flambeau après. Lui, il va passer à autre chose, mais il doute que le film serait greenlit, la suite, parce que ça devient vraiment weird dans les livres, puis très métaphysique, puis toutes des affaires...
Vraiment, ça serait assez audacieux.
Puis difficile à mettre en image de manière intéressante et tout.
Écoute, bon... assurément le tenter, parce que j'imagine...
Ils font pas une série télé avec les
lors du...
les sœurs,
ça s'appelle. Oui. Bennett...
Benny Safdie.
Je suis pas l'expert d'Oon, donc j'ai oublié le nom. Mais effectivement, oui, et Villeneuve est un des producteurs exécutifs. Mm-hmm. Là, fait que un peu impliqué de loin dans le projet. Fait que voilà pour les nouvelles. Sinon, bande-annonce, je pense que le gros film du printemps 2025
vient
d'être dévoilé, la recette Mario.
Mario Bros, sortir un film début avril, puis clencher tout...
Et de jeux vidéo.
Ouais, c'est ça. C'est pas toujours des succès, mais des fois, c'est des succès financiers. A Minecraft movie, en plus, on l'appelle un film de Minecraft, ce qui vous l'apporte en faire 10 000 avec plein d'interprétations.
Ouais.
C'est un petit teaser, on sait pas grand-chose de ce qui se passe. Ça semble être un peu le technique Jumanji, genre du monde coincé dans le jeu vidéo. On retrouve notamment Jack Black et Jason Momoa, fait que des faces populaires.
Et Jason Momoa avec un look
Ouais, il y a comme genre de perruque rose, ou les cheveux, je me souviens plus trop, mais oui, assez weird.
Assez weird.
C'est un film de Jared Hess, qui, lui, à l'époque, était connu avec sa conjointe pour avoir fait Napoléon Dynamite puis Nacho Libre. Fait que peut-être un petit lien, justement, avec Nacho Libre et des fans de Black. Fait que, écoute, début avril, ça va être gros, tout le monde va aller voir ça, puis ça va faire de l'argent.
C'est même étonnant qu'il n'y en avait pas eu un avant ça, honnêtement, vu la popularité mongole de Minecraft.
Puis j'avoue que là, pour le balado, je sais pas quoi faire. On va aller voir le film, puis j'ai jamais joué à Minecraft, je connais pas ça. Honnêtement, je trouve pas que ça a l'air bon. Je pense que ça va être très générique, mais écoute, clair que ça va rejoindre un public.
Oui, c'est sûr. À la limite, ça va faire un bon film familial pour des jeunes, puis ils vont se trouver.
Ben, tu sais, le dernier Mario était ça, là. C'était pas un chef-d'œuvre de tout casser, mais c'était comme, c'est respectable pour l'univers de Mario, puis c'est le fun, puis tu sais.
Ouais, mais là, vu que t'as le réalisateur de Napoléon Dynamite, peut-être qu'il va amener sa petite touche intéressante à lui. Là, j'ai hâte de voir.
Je souviens plus de toute sa filmographie, mais je pense que quand même, leur plus gros succès, c'était Napoléon Dynamite. Là, c'est-à-dire qu'après ça, ça a été de moins en moins vu. Là, comment il s'appelle, là, une affaire de chevaux, là. Ben, c'était pas une histoire de chevaux, là, mais leur troisième film, là. Ben là, il est plus... Ben, il est encore avec sa conjointe, là. C'est des Mormons, eux autres, je pense, là. Fait qu'ils sont sûrement ensemble à tout jamais. Mais c'est plus elle qui est scénariste, là. Ils se retrouvent dans des gros films comme ça, quoi. Tes scénaristes sont imposés, là. C'est plus...
En tout cas, pour Jack Black, j'espère que ça va être plus un Super Mario qu'un Borderlands.
Oui, 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 effectivement, c'est ça. Mais c'est vrai, lui, qui est dans les deux, t'as raison.
C'est ça.
Y a ça. Wolfman, teaser de Lee Wagnell, lui qui a fait Invisible Man récemment, qui était vraiment une belle une belle version là, de cette espèce
c'est
de...
C'est pas lui des Insidious aussi, Lee Wagnell?
Le chapitre 3, je pense. Le 3, OK. Puis Upgrade, là, un bon film de science-fiction, action... qui est passé sous le radar là, à peu près en 2019, à peu près. Là. Ça va sortir le 17 janvier. Fait que c'est un genre de Universal Monsters, mais sans faire un univers connecté là, comme il y avait scié avec la momie puis Tom Cruise puis tout. Là. Fait que là, je pense qu'il fait séparément, indépendamment l'un de l'autre.
Mais j'ai pas eu la chance de le voir, mais je l'avais vu passer, mais ça m'est un peu sorti de la tête. Est-ce que c'est contemporain? Où on est quand même...
Hey, je sais même pas. C'est vraiment un teaser. Okay. T'entends beaucoup d'images de loups, puis tu vois tranquillement le Wolfman, le titre qui se dessine avec des coups de griffe à l'écran et tout. Je l'ai écouté juste une fois, justement, quand j'étais en vacances, là, à peu près 7-8 jours. Là. Fait que je sais plus où ça se situe, si c'est très contemporain ou pas. Mais c'est avec Christopher Abbott, qui est comme un nom qu'on sait pas c'est qui, mais qui est dans bien des affaires. Il était dans Poor Things récemment, It Comes at Night, Possessor. Il va être dans l'excellent Kraven the Hunter, fait qu'il est dans l'animalité. Julia Garner, qui va jouer sa conjointe, qui trouve qu'il est bizarre, dans Ozark, mais surtout dans Fantastic Four, là, c'est elle qui va faire la Silver Surfer et tout. Mm-hmm. Voilà, pour Wolfman, 17 janvier. J'ai bien hâte de voir ça, parce que, ouais, très bon, ce Lee Wagnell, là. Toi, tu avais noté aussi au Québec.
Ouais,
deux, c'est bête parce qu'on a noté que c'est sorti, mais on a oublié de l'écouter. La grande bande-annonce complète pour Le Cyclone de Noël, cette comédie familiale dérivée de cette émission très populaire avec Christine Beaulieu et Véronique Loutier.
Oui. Donc, il prendra l'affiche le 8 novembre, qui sera sûrement un des très gros films de l'automne québécois qui devrait, moi, je prédis, faire un 3 millions.
Ah ouais, ok. Ouais. En mettant ta main sur la table, comme si t'allais l'accoter. Je mise 3 millions.
Ouais,
que le film va faire 3 millions.
Je pense
3 millions fait plus que 23 décembre, tu penses?
Je pense que oui. Oh. Vu le following déjà de la série de télé, qui est une des plus populaires à la télévision.
Mm-hmm. Puis ils ont dit que c'était pas... le film
une semaine après sur
ouais,
la
c'est
plateforme.
Ça, le film se prend en ligne le 1er décembre. Là, ça.
Ils vont laisser
ça va être
l'an
prochain.
Salle,
là,
fait que oui, je pense que c'est ce potentiel-là.
OK. Ouais. Moi, j'ai pas écouté ça. J'ai de la misère à...
C'est vraiment
on parle du guest, là. Oui, j'ai rien contre l'émission, mais c'est des gens qui ont une habitude d'écouter ça à la télé chez eux ou peut-être en ligne sur tout.tv ou des affaires comme ça. Fait que j'ai l'impression que ça va pas commettre autant à aller au cinéma pour voir le film. Moi, je pense que ça va être plus du 2 millions.
On verra.
Les adaptations... au Québec, on n'en a pas fait souvent. On a eu l'inverse. Non. Les Boys, c'est le film qui est devenu une série télé. Mm-hmm. Mais Miss Météo aussi, ça se peut-tu? C'était-tu ça? Maman Lascal qui est devenue...
Mais qui est un
Météo,
dérivé...
C'est un film? C'est un deuxième film ou c'était une série télé? En tout cas...
Il y a eu le film avant, puis après ça, toute la série télé.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Fait que... mais sens inverse, on l'a pas vu... Ben, là, peut-être des
Toupie
Bignou puis des Lancé 50, mais c'était plus des TV movies même. Ouais. Il y a eu, peut-être récemment, il a fait un vrai film, là, avant la dernière, la remouture et tout.
Lancé 50, oui, t'avais
c'est
eu
ça.
Le gros film,
mais,
bref, l'accident d'autobus.
Même aux États-Unis, c'est plus mince d'habitude. Le following, là, c'est très niché. Là, on pense au dernier, c'est pas le même genre, mais le spin-off là, des Newark était comme le prequel des Sopranos puis ces affaires-là. Là, qui a fait,
sauf que
4 millions.
Ils n'ont jamais vraiment fait avec une série qui était au summum de sa popularité. C'est mettons comme de Sopranos, c'était leur ça jouait ou Miami Vice ou des trucs comme ça. T'sais. Fait que c'était souvent une fois que c'était terminé ou quelques années plus tard. Fait que, en tout cas, ce sera à voir. Je te paierai un chip.
Tous ces records.
Si ça l'atteint pas.
Non. Une bière de l'île d'Orléans.
Une bière de l'île d'Orléans, ça me fera plaisir.
OK, bon, ben, ça fait déjà pas mal de temps. On attaque-tu les nouveautés de la semaine, mais on peut commencer par Beetlejuice.
Ben, faut faire le rattrapage parce que c'était quand même un des gros films de l'automne.
Mm-hmm. Bien attendu.
Bien attendu.
Très attendu par la moitié des animateurs de cette émission.
Oui, et par le public en général, vu la fin de semaine incroyable qu'il y a eu. Donc, Beetlejuice de Tim Burton.
Oui, là, il faut faire attention pour ne pas le dire trois fois de suite. Il faut vraiment toujours mettre d'autres mots entre les deux. Avec, on retrouve les vieilles faces qu'on aime. Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara et certains nouveaux visages. Jenna Ortega, qu'on mentionnait précédemment, Monica Bellucci, Justin Theroux, Willem Dafoe. Qu'est-ce qui se passe? On est... Je ne sais même pas... C'est quelle année dans le premier?
Fin 88.
Ouais. Fait qu'on est donc, 35 ans plus tard, à peu près. Et à la suite d'une tragédie familiale, le clan de la famille Dietz, qui s'étend maintenant sur trois générations, donc Ortega qui joue la fille du personnage de Ryder, va revenir dans la demeure ancestrale, là, l'espèce de grand manoir qui achetait dans le premier film. Elle, le personnage de Lydia, donc de Winona Ryder, est rendue une espèce de voyante parce qu'elle voit les morts depuis toutes ces rencontres-là. Et quand elle revient là, elle a comme des images de Beetlejuice, puis elle est comme il y a de quoi de louche qui va se passer. Fait que suite à ça, ben c'est sa fille qui va rentrer en contact un peu avec tout ce monde
de la mort,
c'est ça, de l'au-delà. Et Lydia, donc Winona Ryder, n'aura d'autre choix que de faire appeler
bio-exorciste. Non,
mais je voulais dire d'appeler Beetlejuice, mais c'est ce qui est comme surtout pas trop stable. Là, qu'on peut pas,
De faire une alliance.
Ouais, c'est ça. Parce que lui, son grand rêve, c'était d'épouser Lydia pour pouvoir revoir sa forme mortelle, si on veut y revenir, sur la Terre. Fait que qu'est-ce qui arrive avec Tim Burton? Est-ce qu'il retrouve ses belles années avec ce film-là, tu penses?
Ben, pour ma part, oui. Parce que j'essaie de penser, c'est quand le dernier très bon Tim Burton. Est-ce que ça serait même Big Fish au début des années 2000?
Sweeney Todd avait de quoi d'intéressant, plusieurs étaient fâchés que ce soit une comédie musicale. Ouais. Mais
oui, on pourrait le mettre qu'il essayait autre chose. Il était moins... Parce que dans les derniers films, il était plus sur le pilote automatique. Là. Puis d'ailleurs, lui-même l'a confessé qu'il avait perdu goût
Faire des films. Écoute, j'ai un jeu pour toi. Là. On peut le faire après. Je me demandais... Non, on va parler du film, puis après, je reviendrai.
D'accord.
Sinon, on va trop dévier.
Donc, esthétiquement, moi, j'ai trouvé que c'est un Burton qui est en forme. Je pense qu'on retrouve bien l'univers. On retrouve bien l'univers de Beetlejuice. J'ai aimé le fait qu'il y a beaucoup des trucages qui sont mécaniques.
C'est ça, beaucoup d'effets pratiques. Beaucoup d'effets pratiques,
des maquillages, des décors. Ça fait qu'on n'est pas sur des fonds verts dans un studio avec des effets numériques. Fait que ça, puis je pense que c'était une volonté de Burton et beaucoup de Michael Keaton aussi de revenir à cette formule-là, parce que c'était un peu ça le charme du premier Beetlejuice aussi. Tu avais ce côté-là très série B. C'était un film qui était quand même de petit budget pour l'époque. Qui mettait en place l'esthétisme de Burton, qui venait de l'animation d'image par image. Tu avais un côté un peu papier-carton dans les décors, c'est très huis clos, la majorité du film se déroulait dans la maison. Mais moi, je dois avouer que j'ai quand même eu un clash. Fait que ce genre de film, je suis content de voir que après les réactions que je vois sur les réactions des cinéphiles, mais dans mon entourage aussi, les gens semblent avoir beaucoup aimé ça. Mm-hmm. Moi, je suis sorti un peu comme mitigé parce que, d'une part, je pense que ce n'est pas le film auquel je m'attendais, mais ça, c'est pas nécessairement un défaut. Mais j'ai peut-être fait l'erreur, puis c'est un de mes amis qui m'avait pensé ça, d'avoir écouté l'original quelques jours avant. Puis je pense que quand tu as tellement un grand écart comme ça dans ces films-là, il y a un clash nécessairement visuel puis esthétique, puis juste dans la façon de filmer puis de raconter l'histoire, parce qu'on ne filme plus les films comme ça se faisait dans les années 80.
Okay.
C'était la même chose avec Indiana Jones quand l'autre était sorti, là, Kingdom of the Crystal Skull, en 2007. Mais ça aussi, je me rappelle, lui, cet effet-là, je dis « Ah ouais, mais ça n'a pas le même feeling qu'Indiana Jones des années 80, mais en quelque part, c'est normal parce que t'sais, on n'est pas été habitué à en avoir aux 3-4 ans. Puis peut-être tu peux plus t'habituer à ça, mais là, c'est comme tu as 30 ans, paf, décor d'un coup. Fait que j'avoue que ça m'a fait sortir un peu du film. Fait que je vais lui redonner une autre chance.
Et comme un peu fait pour que tu n'écoutes pas l'autre trop avant. T'sais, ils font toujours pour « Ah oui, je l'ai déjà vu. » Fait que on prend le temps de te remettre en scène sur qu'est-ce qui se passe. Il y a un peu si tu écoutes back à back, non seulement la manière de filmer, mais t'as comme de la redite dans l'histoire parce que t'es comme, ben oui, mais je le sais, je viens de le voir. Ouais, mais t'es pas supposé l'écouter tout de suite après.
Ouais, effectivement. Bien que les clins d'œil, par exemple, au film original sont bien réussis. Mm-hmm. Peut-être un peu trop de contenu, un peu trop de personnages. Je trouve qu'au niveau du scénario, là,
ouais, c'est ça. Le personnage de Monica Bellucci et de Willem Dafoe sont un petit peu forcés là-dedans.
Ouais, parce que tu les enlèves de l'équation, puis ultimement, ça ne va pas changer grand-chose à l'histoire. Fait qu'au niveau du scénario, j'ai peut-être cette réserve-là, mais sinon, on sent vraiment que les comédiens ont un plaisir renouer avec le personnage.
Le générique d'introduction avec la musique de Daniel Fan, je sais pas si c'était une nouvelle ou une reprise de l'original.
Ils l'ont réarrangé un peu musicalement.
C'est cool. Puis ça filme la maquette, puis tu vois que c'est une maquette, puis etc. Là, ça, j'ai bien
comme
apprécié.
Comme le premier aussi, d'ailleurs.
Ouais, voilà.
Et Keaton est en grande forme, là, je veux dire.
Oui, c'est ça. Et puis, tu sais, il est là aussi raisonnablement, comme on discutait. J'étais là, ça prend du temps avant qu'on le voit beaucoup. Puis tu m'as dit, rappeler comme ben là, le premier aussi, parce que c'est plus les fantômes. Eux sont pas là du tout, là, Gina Davis puis Baldwin. Ils sont pas là pantoute. Autre personnage qui est pas là, mais qui est
quand même présent,
temps, là,
ouais.
C'est le personnage du père de famille joué par
Charles.
Jeffrey Jones.
Ouais.
Parce que ben il a été déclaré pédophile notable là, pour des accusations d'agression sexuelle sur des mineurs puis des affaires de même. Fait que là, il est plus du tout dans le portrait artistique non plus et il est retiré, reclus quelque part.
Ouais.
Fait que là, en fait, ben on peut pas le remettre, ça a pas de sens. Ils ont dû se poser la question de genre, est-ce qu'on le recast? Puis ils ont choisi, c'est pas un spoiler, c'est ça qui regroupe toute la famille, c'est qui décède. Mais finalement, on en parle vraiment beaucoup de son personnage tout au long du film. Puis, ben, on voit plein de photos de lui parce qu'il regarde des photos de quand il était là parce que c'est un peu ça qui manque. T'sais, ça affecte le personnage de Catherine O'Hara qui perd son mari. Ça affecte celui de Winona qui perd son père. L'autre qui perd son grand-père est un petit peu plus loose avec ça. Fait que je suis comme, ben, pour un gars qu'on met pas dans le film, qu'on recast pas, ben, il est là dans la moitié du film, là, en version morte, puis etc., genre, mais... Fait que j'ai trouvé ça comme surprenant.
Ouais,
genre.
Moi aussi, j'avoue que je m'attendais pas du tout à ça.
Ben, c'est... En tout cas, tant qu'à ça, il aurait quasiment pu le recaster, puis le mettre, puis le faire mourir, mais dire, on va mettre la nouvelle face, on trouve un autre rouquin, là... Elle perd dans les Harry Potter, là, je sais pas quoi, puis on...
Ouais, à la limite, ça aurait pu être juste... être ça aussi qu'il se réunisse à son décès, mais que ça va pas plus loin avec lui. Là. Tu sais, je pense que c'est pour ça. Donner beaucoup plus de jus au personnage de Catherine O'Hara qu'autre chose. Là. Mais bref, ça, c'est un choix.
Mais ça m'a pas choqué.
C'est surprenant.
Surpris, exactement.
Ouais, moi aussi, un peu comme toi là-dessus.
J'ai beaucoup de temps d'écran. Pour
mais ceci dit, moi, j'ai bien apprécié encore une fois Jenna Ortega qui confirme vraiment qu'elle est de... comédienne de grand talent, malgré son jeune âge, début vingtaine, elle a quand même une feuille de route assez impressionnante. Puis d'ailleurs, pour les amateurs de Wednesday, la deuxième saison s'en vient bientôt. Et d'ailleurs, c'est le lien, pourquoi qu'elle est dans Beetlejuice, c'est que Tim Burton, qui est un des créateurs-producteurs de Wednesday, qui avait tourné quelques-uns des épisodes, ben,
c'est
suite à cette rencontre-là avec elle qu'il voulait absolument la mettre dans cette suite-là. Là. Et fait qu'avant d'aller vers ce que tu me disais, moi j'avais des petits trucs intéressants sur Beetlejuice. Juste revenir, tu parlais de l'attente justement. Écoute, ça fait une trentaine d'années que plusieurs suites circulent, qu'on annonçait des trucs, puis il y en a eu deux mémorables.
Parce que, tu sais, lui, toutes les années fin 80-90, il était quand même très occupé. Fait que je sais pas où il aurait eu le temps d'en glisser une.
Ben, c'était un peu ça le problème.
Le premier n'a pas dû être un succès box-office.
Oui, c'était le dixième de l'année. Il avait fini avec 70 millions, ce qui est quand même assez énorme. Il avait un grand succès en location aussi.
Oui, puis c'est pas mal son premier film iconique parce qu'il a fait Pee-wee, Big Adventure. Puis après, quand il est arrivé avec sa signature, c'est ça. Okay, ouais,
c'était avec Batman. Mais en fait, il devait tourner Batman avant Beetlejuice. Mais Beetlejuice est arrivé parce que Batman a pris plus de temps à scénariser, à conceptualiser. Fait qu'il est allé faire ce petit projet-là qui n'était pas trop compliqué. Mais aussi, Beetlejuice, suite au film, il avait une série animée. Je pense qu'il y a une ou deux saisons.
Je me souviens d'avoir vu ça quand j'étais jeune.
Ouais. Fait qu'il était assez flyé. Moi, j'étais rendu un peu vieux. Tu sais, j'avais écouté un peu ici et là, par curiosité. Mais là, évidemment, j'ai un peu passé l'âge d'écouter ça régulièrement. Mais c'était assez réussi. C'était assez loufoque. Donc, rapidement, au début des années 90, Tim Burton avait quand même cette idée-là de faire une suite. Fait qu'il avait demandé à deux scénaristes de lui proposer deux histoires différentes. Donc, il y avait Beetlejuice in Love, qui était scénarisé par Warren Scarron. Donc, Warren Scarron était un des scénaristes de Batman, qui avait retravaillé le scénario de Beetlejuice. Évidemment, la liaison avec Tim Burton était là. Mais lui est décédé pas longtemps après avoir remis la première version du scénario, un cancer des os à 44 ans. Décédé très jeune. Fait que l'histoire de Beetlejuice in Love, c'était Beetlejuice se retrouve, je sais pas, en tout cas, à Paris, ou en tout cas, c'était un couple français dont la fiancée tombe en bas de la Tour Eiffel, puis finalement va vous rencontrer Beetlejuice dans l'au-delà, puis il y a cette histoire-là de reconquérir la personne qui était restée sur Terre, puis il y avait Beetlejuice, et celle-là, ça a duré peut-être un 7-8 ans, puis je m'en rappelle assez bien, je lisais beaucoup de magazines, c'était Beetlejuice Goes Hawaiian, où les Deets ouvrent un resort de touristes, tout inclus à Hawaï. Puis Beetlejuice se retrouve là. Puis je pense que c'était pour créer justement un peu comme on voulait faire dans la maison. Là, donc, des fantômes pour faire peur aux gens et tout ça. Mm-hmm. Fait que ça, c'est écrit par Jonathan James, qui a travaillé après avec Burton sur Mars Attacks.
Ah, bon.
Fait que quand même, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de versions pour satisfaire tout le monde. Puis même la dernière version, Burton n'était pas nécessairement chaud à l'idée, parce que c'est quand même intéressant, c'est Brad Pitt qui est le producteur.
Ouais, Plan B.
Plan B avec sa boîte de production. Puis c'est comme, je pense que lui, finalement, il a développé ça, puis c'est lui qui a présenté à Burton, parce que Burton n'était pas dans le coup dès le départ. Là. C'est pas lui qui est arrivé, puis ah oui, ok, on va faire ça. Fait qu'il a retravaillé des idées, mais faut quand même saluer. Donc, ce travail-là. Okay.
Ben là, c'est aussi le temps a fait que c'était logique d'avoir une troisième génération, etc. Ouais. Vu qu'on est
tout à fait.
J'ai un jeu pour toi.
Oui.
Parce que tu l'as mentionné, ses derniers films étaient un petit peu plus coussi-coussa. Ouais. Je pense qu'il a fait certains essais, il a fait beaucoup d'adaptations de trucs jeunesse, là, puis des classiques, ouais. Des remakes Dumbo, des affaires comme ça. Mais ça serait, c'est comme une double question, peut-être c'est le même film. Ça serait quoi ton film préféré de Tim Burton?
Oui.
Puis ça serait quoi le film le plus emblématique de Tim Burton? Parce qu'on dit beaucoup justement avec Beetlejuice, oh, on retrouve son esthétique, on trouve son style, on trouve ses affaires.
C'était, moi, je dirais, son plus emblématique, disons, allons-y avec ça.
Oui.
Moi, je pensais à Edward Scissorhands.
Oui, j'aurais dit la même chose. Je pense que si tu as présenté Tim Burton à quelqu'un qui dit c'est quoi, je connais pas ça, quel film j'écoute, je pense que je mettrais Edouard aux mains d'argent. Si...
Parce que d'un, c'est sa création, c'est le personnage qui me gribouillait depuis ses années étudiant en animation. Je pense que ça représente tout son univers de l'étrange, de fantaisiste, d'excentricité. Film préféré, ça, c'est quand même tough. Je vais exclure les Batman.
Oui, bien sûr.
Parce que...
Tu sais que le retour de Batman est un peu sous-estimé dans le sens qu'à chaque fois que le monde en parle, il trouve que c'est un des meilleurs. C'est un film de Noël. Plein de beaux côtés, mais c'est jamais le il est rarement dans le top 10 de quelqu'un, genre des meilleurs films.
Le truc avec Batman Returns, c'est que c'est pas un film de Batman, c'est plus un film de Burton qu'un film de Batman, contrairement au premier. Fait que là, c'était vraiment approprié l'univers, puis il l'avait vraiment mis à son goût. Fait que si j'enlève les Batman, je pense que j'ai pas le choix d'aller avec Edward Scissorhands.
OK. J'avoue que Edward a quelque chose, mais Batman Returns, c'est parce qu'il m'a tellement marqué. Moi, j'étais très Batman quand né en 86. Je capotais. Fait que ces films-là, je pense les avoir enregistrés à TV à un moment donné, puis j'y réécoutais souvent. J'étais très marqué quand la femme chat fait ça arrive pour embrasser le personnage
De Batman, oui.
Non, pas de Batman, mais du
pingouin.
Non.
Max Shrek.
Oui, Max Shrek, qui est joué par, j'oublie son
Christopher
nom.
Christopher Walken.
Puis qui amène l'espèce de taser, genre, puis qui l'électrocute. La fameuse scène du pingouin qui saigne vert, puis je spoil toute la fin du film. Qui saigne vert, puis qui descend dans l'eau avec tous les petits pingouins. C'était très lugubre.
Oui, vraiment.
Mais il y a de l'intro aussi, la caméra qui voyage dans les tunnels, puis les parents qui droppent la vieille poussette dans. Oh, ouais, ça m'a vraiment marqué ce film-là. Mais. Rencontrer plus tard Mars Attacks, je suis quand même...
Ah oui?
C'est vraiment un fun movie. Puis je pense que c'est les époques où... On est en 96. 16, ouais. Est-ce que... pourtant... Ça doit être parce que je l'ai vu par après. Parce qu'il y a Pierce Brosnan dans ce film-là. Mais moi, Pierce, il est connu dans GoldenEye, mais mm-hmm. GoldenEye, c'est un peu plus tard, c'est 90.
C'était avant, c'était 95.
Ah, OK, bon, ouais. Parfait. Fait que tout fit, c'est ça. Fait que j'avais vu GoldenEye. Ah ouais. Oui, c'est Tomorrow Never Die, qui est ouais. 98, genre. Fait que, puis là, j'étais comme, eh oui, Pierce Brosnan, c'est James Bond, je veux voir ce film-là. Puis là, je voyais ça.
Puis là, il... prétentieux, c'était-tu ça? C'était-tu...
Ouais, je pense, ouais. Un journaliste ou un scientifique, puis il finit la tête...
Oui,
Ah non, c'est qu'il... Je sais plus s'il a la tête arrachée, mais il est amoureux d'une fille qui a la tête cousue sur un chihuahua, oui. Puis sa tête, ouais, c'est ça, mais lui, il est peut-être correct, puis... Non, je trouvais ça coco, crazy, ce film-là. Bunker, ça. Mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Puis, il me semble qu'il y a un jeune Jack Black aussi dans ce film-là.
Ça se peut être Michael J. Fox en
laser trop, gunné. Puis,
fait que, mais Jack non, Nicholson c'est... en président.
Oui, c'est ça. Mais je pense que... Non, je pense que j'irai sur Batman Returns quand ouais. même. Mais, ouais,
moi, j'ai... Mars Attacks, ça m'avait un peu déçu. Je m'attendais à plus. Je trouvais ça trop chaotique. Mais Mandé deux Batman, moi, je pense que j'ai... Petite préférence pour le premier Batman c'est quand ça. Même, mais même si j'aime beaucoup Batman Returns. Mais
je crois que j'ai plus vu le premier, mais ce que j'aime bien du Returns, c'est qu'il y a plus le moyen de ses ambitions, mettons. Là. On le sent qu'il y a un plus gros casting. Que... Puis tu sais, on n'est pas si loin, on bifurque sur Batman, on en revient toujours à ça. Mais tu sais, Joel Schumacher, il a mangé des claques là, pour ses films, surtout le dernier, Batman ouais. et Robin. Mais en même temps, ils sont très comic book. Puis oui. Si on était passé du premier Batman à Batman Forever...
Ça aurait été moins pire.
Ben, ouais. Non, mais je veux dire, on aurait quand même trouvé ça surprenant. Oui, mais oui. Je trouve que Batman Returns fait... Moi, je trouve qu'il fait le pont esthétiquement entre les deux.
Ah, OK.
Mais ouais, peut-être qu'au niveau de la qualité, là... C'est Forever avec Tommy Lee Jones, puis le Sphinx, c'est des personnages de BD. C'est sûr qu'ils n'existent pas. Tandis que... On dirait que le pingouin puis la femme chat de Burton étaient un peu plus assis dans leur univers, là. C'est sûr qu'ils... C'est weird, là, tu sais, le... Mm-hmm. Mais à partir de ceux de Schumacher, c'est comme... Ouais, c'est ça, c'est des... Ça rappelle les vieux Batman,
oui,
là,
oui,
tu sais. Les complots série. Ensemble en se liant des mains puis en riant. Des sacs d'argent avec des signes de pièces, là.
Oui, il manque juste là. Les boom-pam, pouf,
oui,
à
c'est
l'écran,
ça,
là,
exact,
puis,
fait, c'est ça. Je sais pas pourquoi tout le monde était fâché de même, là. C'était comme... On dirait que c'était... Ils ont fait des excuses là, pour les bat nipples puis des enfants.
Ouais, ben c'est parce que là, le contraste était tellement trop gros entre ceux de Burton, surtout le premier qui a été vraiment adoré par tout le monde, qui avait fait l'unanimité. Fait que là, j'ai l'impression que les puristes, les fans de ce film-là se retrouvaient pas dans ceux de.
Mais
de
moi, je pense que ça doit être une idée, une affaire de production aussi, là, de dire. Tu sais, il y avait des jouets au McDo, là, puis il y avait des pubs de Visa avec des exemples Batman, puis des affaires de même.
C'est la raison pourquoi Burton a été tassé pour Batman Forever.
Ah, parce que lui, voulait pas...
En fait, c'est parce que Batman Returns était trop intense pour les jeunes. Okay. Fait que les partenaires promotionnels de Warner, en fait, on peut pas vendre nos jouets dans McDo, là. C'est pas un film pour enfants. Fait qu'il y a une grosse perte d'argent.
Ah, mais c'est ça. Fait que c'est pour
oui,
ça.
Oui,
c'est ça qui explique le ton des derniers.
Ben, oui.
Schumacher a fait
on
des excuses,
vendre des jouets.
C'est comme pas de ta faute, là, t'sais.
Non, non, il répondait à la commande du studio qui voulait des films pour enfants pour vendre des
c'est
bonhommes.
C'est ça, puis des bad girls, puis des ouais. belles faces connues, puis tout. Là.
C'est clair, bref. C'est clair. Mais sinon, dans les oui. sous-estimés, parce que ça n'avait pas connu un gros succès au box-office, c'est Ed Wood, quand même. Qui
ouais, je l'ai même pas vu, en plus. Je ne suis pas un très grand connaisseur d'Ed Wood. Je pense que je n'ai même pas vu Planet Mind.
Je
n'ai
pas vu
Space,
ses films avant de voir ce film-là, mais ça vaut la peine aussi. Si okay. un autre à voir. Là.
Je me souviens du début 2000, là, quand je commençais à être plus allumé sur le cinéma, puis tout Big Fish avait quand même beaucoup marqué mes amis et moi, de genre, oh, wow, c'est
pour
pas...
Pour ça que je pense que c'est son dernier plus important, je pense, c'est
ça. Ben, ouais, Charlie la chocolaterie, ça avait de quoi de... Côté familial, là, c'est quand il trippait Johnny Depp et tout, mais ouais. Corpse Bride, j'en ai pas ben de souvenirs. Sweeney Todd, j'avais trouvé ça edgy, je pense. Puis je crois que tout ce qu'il y a après, j'ai rien vu. Alice in Wonderland, j'ai pas vu ça. Dark Shadows non plus. Frankenweenie, je sais que c'est quand même bien, mais j'ai pas vu. Big Eyes non plus. Peregrine, Dumbo, puis on arrive à Beetlejuice. Fait que ouais, finalement, c'est... J'ai peut-être juste vu la moitié de ces films, là. Bref.
Mais je pense que tu as vu les plus intéressants.
Voilà.
Alors, restons dans le lugubre un peu avec Speak No Evil de James Watkins.
Oui, Ne dis rien au Québec. James Watkins, pas un cinéaste si connu que ça, mais il a fait quand même The Woman in Black qui était, j'ai pas vu, mais notable pour être Daniel Radcliffe dans pas Harry Potter à l'époque où il commençait à faire autre chose.
Je pense que ça a été bien reçu. Mais
je pense que oui, c'est comme, ça. Mais je crois que c'est le genre de film que les gros fans de films d'horreur, de joueurs peur, puis tout, sont déçus, mais ceux qui sont plus, dans le genre suspense et tout.
Ouais, puis ça se voulait vraiment un clin d'œil, je pense, au film des Hammer des années 60-70, là, avec Christopher Lee, puis...
OK.
Voyons... Peter Cushing, toutes ces affaires-là, le film de vampire, de monstre, un peu... Okay.
Ben, un peu Sleepy Hollow, finalement.
Ouais, c'est ça, là, c'est un peu série B britannique, là, qui avait fait école. Là,
pour puis dans ses premiers films aussi, Eden Lake, que j'ai souvent entendu parler en bien, mais que je n'ai jamais vu, avec Fassbender et tout. Mais ici, Speak No Evil, peut-être ça vous dit de quoi de base? Ben, c'est un film danois très récent, de 2022, mais qui est sorti un peu pandémie, sans tambour ni trompette. Il n'a pas joué du tout dans tous les marchés. Fait que du côté des Américains, ben, on a dit « Wow, c'est donc bien cool ce film-là, ben, pourquoi on le refait pas? » Fait que c'est chez Blumhouse, Jason Blum, qui est, je ne sais pas comment ça s'est fait, là, mais c'est produit par Blumhouse, je ne sais plus qui est le premier qui a eu l'idée. Ben, c'est Watkins qui réécrit le scénario ici. Mais c'est norvégien, je pense. Non, c'est danois, avec Christian Tafdrup, et quand même, qui avait réalisé et coécrit avec son frère. Je pense qu'il est producteur exécutif là, sur le remake. Il est quand même attaché à tout ça. Ici, on retrouve James McAvoy et Aisling Franciosi, qui sont comme un couple. Et l'autre couple, joué par Mackenzie Davis et Scott McNairy. Mackenzie Davis, c'est surtout Terminator Dark Fate, là, récemment, qui était la badass. Sinon, elle était dans The Martian, Blade Runner 2049. Scott McNairy est comme une face qu'on reconnaît, puis qu'on dit « Dans quoi je l'ai vu? » Donc, ben, genre, dans 10 000 affaires. Ouais. Mais une grosse année, il est dans Night Bitch. Oui. Il va être aussi dans A Complete Unknown, le film de Bob Dylan avec le petit...
Très bon comédien, honnêtement, qui m'avait bien étonné dans Night Bitch. Fait que,
grosse année 2024.
Mais Mackenzie Davis, c'est drôle, parce qu'effectivement, je me rappelle de cette période-là, Terminator, puis il y avait un gros, gros buzz, là, c'était supposé être la next thing Hollywood. T'sais, tout le monde se l'arrachait pour 2-3 films. Terminator est sorti, ça n'a pas fonctionné. Puis,
ouais, c'est ça.
Ça a été tranquille dans les dernières années pour elle. Je pense que elle retourne à la télévision, puis elle a un petit succès là, avec une série. Là, okay. Mais ouais.
Tant mieux. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Je vous parlerai un peu de la comparaison entre les deux films tantôt. Mais on est en voyage en Italie. On va suivre le couple d'Américains, donc de McNairy puis Davis, qui sont avec leur fille de 11-12 ans. Ils font faire la rencontre d'une famille d'anglais, là, donc McAvoy puis Franciosi. McAvoy, lui, c'est un Écossais dans la vraie vie. Non, c'est un... C'est un Écossais ou c'est un Irlandais? C'est un Écossais.
Ça doit être Écossais, mec.
Puis, elle, Francesca, c'est une Irlandaise. Fait qu'il joue justement du monde de Grande-Bretagne, Royaume-Uni, etc. Fait qu'il rencontre là-bas, les couples des Anglais sont pas mal plus lousses un peu là, dans leurs mœurs et les affaires. Fait qu'ils trouvent ça drôle puis leur disent « Hey, on se rencontre ici en Italie en lieu neutre, mais... » Il me semble qu'on aurait des affinités. Eux, ils ont un garçon qui a quand même des problèmes un peu d'élocution, etc., là, qui a l'air un petit peu... différents, mettons. Puis ils disent, mais tu sais, quand même, ça fait du bien à notre enfant de pouvoir interagir avec la vôtre. Fait que vous devriez venir chez nous visiter ce coin-là parce que les Américains habitent maintenant à Londres. Ils viennent de s'établir pour le travail. Fait que vous devriez venir nous voir à Manet. Fait que là, tout le monde retourne à la maison. Ils reçoivent l'invitation un peu plus tard. Puis ils disent, hey, on y va-tu? Puis là, ils sont comme hésitants. Ouais, c'est un peu weird, mais tu sais, notre couple qui va pas trop bien, ça nous ferait du bien, je pense, de faire ça. Fait qu'ils vont se rendre là et un peu isolés dans cet endroit-là. Et juste avec cette famille-là, vont les trouver un peu de plus en plus étranges, puis ça va remplir un peu de malaise, puis de confrontation morale, elle qui est végétarienne, la manière d'élever les enfants, comment tu parles aux enfants des autres, toutes ces mœurs-là vont tranquillement alourdir leurs vacances, puis briser leur séjour idyllique finalement avec eux qui pourraient être potentiellement de bons amis.
Mm-hmm.
C'est donc un suspense psychologique. Elle n'est pas comme un film d'horreur.
Non, vraiment pas.
On est vraiment dans le code du suspense. Moi, j'ai écouté en début de semaine le film original, puis je n'avais entendu parler, je n'avais jamais pris le temps de l'écouter. Mm-hmm. Le film danois, fait que j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais disons que j'ai plus apprécié l'original que le remake, c'est souvent la formule, mais toi, tu es allé viergement voir ce film-là.
J'avais même pas vu la bande-annonce. J'avais aucune idée qu'est-ce que j'allais voir. Fait que moi, honnêtement, sur cette base-là, j'ai trouvé que c'est un thriller efficace. C'est intéressant. Tout le long, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer, bien qu'on nous donne un peu des pistes ici et là.
C'est juste le poster avec McAvoy qui... Ça s'appelle Speak No Evil, qui est un peu la... C'est quoi? Hear no evil, speak no evil.
See no evil.
Si on est no evil, là, comme en trois phrases. Ouais. Là, les émojis de petits singes qui se mettent les mains, ses yeux, sa bouche. Fait que c'est une phrase de genre, quand il y a quelque chose qui va pas bien, t'en parles pas. Là. C'est un peu ça. Il n'y a pas vraiment de traduction à cette expression-là mm-hmm. comme telle.
Et sinon, ben, c'est bien réalisé, des bons niveaux de moments de tension. Évidemment, ça prend un peu du temps avant d'embarquer, mais c'est normal dans ce genre de film-là. Là, mm-hmm. ça, on prend le temps de bien installer toutes les dynamiques avant que ça bascule.
Ouais, pour et, tranquillement nous oppresser.
Ben oui, et honnêtement, les comédiens sont vraiment excellents. J'ai passé un bon moment.
McAvoy a l'air depuis quelques années, surtout depuis Split et ces affaires-là, à aimer jouer des gens un peu torturés puis un peu... plus malsain que le good guy, hein, depuis... Il a pris du muscle aussi.
Oui, c'est assez. Costaud, écoute, je m'attendais à voir même Bruce Willis apparaître à un moment donné.
Oui, c'est ça. Un autre spin-off.
C'est son personnage de Split qui est revenu, puis qui a pris une autre
fois. Quoique, ces temps-ci, ce serait pas de bon augure pour le film, parce que c'est pas mal des flops que... Comment ça s'appelle sa compagnie de prod, là? Je sais plus, mais en tout cas, les deux films qu'ils ont fait cette année n'ont pas rencontré leur public.
Ouais, fait que bref. Fait qu'on a honnêtement, si vous voulez quelque chose de ce type-là, c'est efficace, vous allez être bien servi.
Ouais.
Mais je suis content d'entendre tes...
Je suis content que tu l'apprécies. Je n'ai pas déprécié ça. C'est un film qui est... Ça a plus l'air d'un suspense américain.
Mm-hmm.
Puis c'est vraiment ce qu'ils ont fait avec le film. Ils n'ont pas tout gâché. Le premier deux tiers du film est sensiblement le même. C'est à peu près les mêmes événements. C'est juste que l'accent est mis sur quelque chose d'un petit peu différent par rapport à l'original. L'original aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est des Danois qui rencontrent des Hollandais.
Mm-hmm.
Fait que ça se passe en Europe, mais comme ils parlent pas la même langue, finalement, ils parlent souvent en anglais. Quand ils parlent entre eux, ils parlent toujours en anglais.
Oui.
C'est juste des fois quand ils parlent à leurs enfants, leurs propres enfants ou entre eux. Des fois, c'est même pas sous-titré dans le film. C'est juste comme tu comprends comme qu'est-ce qu'ils disent un peu parce qu'après ça, ils parlent en anglais. Fait que c'est un film qui a quand même une très grande portée internationale. Et puis qui ont littéralement le même titre, là, Speak No Evil. Mais le premier joue plus un peu ce genre. Je sais pas si on peut le qualifier de elevated horror. Là, peut-être pas à ce point-là, mais il joue plus sur la surprise un peu et ce côté de l'humain moyen là, dans une situation... C'est sûr que c'est une situation... Là, mais non, même pas la plupart, là, tu vas comme pas réagir. Tu vas plus comme être braqué. Puis c'est beaucoup, eux, plus les choses sont étranges, comme on dit, là où ils sont, les mœurs, les façons, ils font... Tu sais, ils cherchent une excuse. Genre. Ah, mais tu sais, c'est parce qu'il est comme ça. Ah, ils sont comme ça. Ah, c'est pas si pire que ça, finalement. On reste. Tu sais, jusqu'à un espèce de point de rupture, tu dis, ben, vous auriez dû partir. T'sais. Alors que dans un film d'horreur, horror flick traditionnel, c'est un peu comme, ah, on va se séparer. Moi, je vais aller tout seul au grenier voir si le tueur est encore là. Tu sais, ça, c'est pas une bonne façon d'agir parce que là, t'as vraiment une raison de partir. Mais quand t'es juste, j'entends un craquement. Ah, je vais aller voir. T'sais, là, souvent, on crie à notre télé, vas-y pas, c'est un tueur. Mais elle, c'est correct qu'elle sache pas que c'est un tueur. Fait que t'as un peu une famille de même qui est juste, ben, ils sont weird, mais t'sais, c'est quoi les chances qu'ils soient vraiment méchants? T'sais, ils sont juste.
Ouais.
Fait que c'est un peu ce côté-là. Fait qu'on dirait que dans le premier, c'est ben non, je dis dans le premier. L'original, c'est plus subtil, toutes ces affaires-là.
Ouais.
Le nouveau, c'est plus mis dans ta face, certaines affaires de genre, hey, voici comment ils sont pas fins, voici ça, l'autre, faut un peu plus tu le devines. Et surtout, je spoilerai pas, mais la fin de l'original est plus pessimiste, plus nihiliste, plus genre, ben dans la vie, il y a des trous de cul, puis il y a des trous de cul, tu sais. Là, on est un petit peu plus... c'est plus sauceux, tu sais, c'est ça l'affaire. Ouais, ouais. T'sais, il y a plus de sauce sur le film, mais au final, il est moins goûteux. Moi, je trouve que c'est un peu ça. Mais c'est pas
bien
mauvais
dit,
en soi. Tu sais, tantôt, on parlait un peu des films sexy là, à cause de Baby Girl, genre de la grande ère des années 90, de Demi Moore, puis de Sharon Stone, puis du Michael... pas Keaton, mais l'autre.
Douglas, ouais.
Douglas, c'est ça qui était dans tous ces films-là de le sexe qui tourne mal, là, un peu. Fait que ça, c'est cette sauce de aussi ces films... ouais, un peu de suspense, de m'amener, faut que je trouve une arme pour me défendre, puis qu'est-ce qui va arriver, tout ça. Fait que je recommande ce film, mais je recommande plus l'original,
ouais,
si on me pose vraiment la question. Puis si vous avez envie de voir les deux, ben, je pense qu'à ce moment-là, c'est quasiment mieux de voir cette nouvelle version d'abord, puis après réécouter
comparer
l'autre, pour voir
l'autre.
La différence, c'est ça, parce que comme est plus subtil, mais on dirait que quand j'écoutais le nouveau, j'étais comme, mais oui, on le sait. Puis tu sais, un peu comme toi avec Beetlejuice, si j'avais vu le film il y a 2 ans, peut-être que je l'aurais trouvé plus près de l'original, comme je l'ai vu il y a 3 jours.
Ouais, c'est ça.
Comme là, je voyais tout de suite les nuances, tu sais, puis
ouais.
C'est un peu un film à punch, fait que quand tu sais le punch, bon, je regarde la mise en scène, le jeu, comme les comédiens sont super, là, tu sais.
Ça, c'est sûr que
c'est
le regard
bon
ne peut pas être le même, parce que justement, moi, j'avais aucune idée vers où ça s'en allait, fait que... Alors que toi, tu savais effectivement.
Puis même, justement, la bande-annonce, l'affiche, c'est mieux de ne pas le savoir. Vous vous doutez qu'il y a une des deux familles qui est moins fine que l'autre, là, mais t'sais, ce genre de film, t'écoutes la bande-annonce, ah, à Mané, je le sais qu'il va y avoir tel événement, telle affaire, tel problème, une scène où quelqu'un va avoir un gun, une scène où il y a ça. Fait que quand t'écoutes le film, tu dis, ah, ben oui, il faut que ça s'en vienne, il faut que ça s'en vienne. Là. Mm. C'est pour ça qu'on a parlé cet été, là, la déferlante de bande-annonce qu'à Mané m'a rendu, c'était Alien, là, rendu aux bande-annonces 2 puis 3. Je veux plus les voir là, parce que je veux avoir des surprises là, oui. Quand le film va jouer.
Fait mais que, c'est vrai, en fait, tout ce que tu me dis là fait écho à un film que je te parlais en sortant de la salle. Puis mm-hmm. Je sais que des fois, les gens aiment ça, avoir d'autres suggestions, ils ont aimé ça. Puis on le fait pas trop souvent, mais il faudrait le faire un moment donné aussi.
Mais The Vanishing.
Oui, The Vanishing, surtout la version originale qui est L'homme qui voulait savoir.
OK.
Ça semble être pas mal dans ce que tu me décris.
Ça, c'est
là.
Les années 90? Ça,
c'était début 90, peut-être 11-12 dans ces années-là. C'était un film coproduction
genre
française néerlandaise.
Ouais, dans ces années-là. Okay.
Un des meilleurs suspens que j'ai vu, L'homme qui voulait savoir. Puis justement, cette version-là américaine qui avait été faite quelques années plus tard avec Kiefer Sutherland puis Jeff Bridges. On avait vraiment complètement changé la fin, américanisé la fin. Puis ça dilue complètement cet effet choc. Cet effet choc qu'on ressentait avec l'original. Fait que bref.
Il y a eu plusieurs films, plusieurs suspens français qui avaient été repris par des Américains. Ben, entre autres, le film qui avait donné True Lies. Là,
oui. Mais... Ben, non, mais ça, c'est une comédie.
C'était
une comédie?
Totale,
ouais, okay. La totale.
Bon, pardon
ouais,
pour celle-là. Mais je pensais surtout une avant avec François Cluzet. Là, puis je me demande si ça s'appelle... c'était pas Ne dis rien, mais c'était Ne parle pas à personne ou Parle à personne ou une affaire comme ça, qui avait été repris... je me mêle peut-être, mais il a été repris aux États-Unis. Puis il y en a un autre aussi qui c'était avec, je pense, Vincent Lindon, qui voulait aider, puis peut-être Diane Kruger, qui voulait aider sa femme à s'évader. Puis ça avait été repris, Three Days to Kill, avec, je pense, voyons, le gars de Gladiator, là.
Russell Crowe?
Ouais, okay. Quelque chose ouais, comme ça. Fait que, ouais, en tout cas, c'était...
Mais bon, souvent, c'est des modes, là, tu sais, quand... Une adaptation qu'on a un certain
succès. J'ai dit François Cluzet, c'est Daniel Auteuil. Si je
Daniel Auteuil, oui.
Ouais, ça, c'est une parle à personne ou quelque chose comme ça, que sa femme disparaît, puis il essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis finalement, il y a anguille sous roche, là. Mm. Mais, ouais. Bref.
Allons complètement ailleurs dans l'offrande légère de la semaine.
Oui. La comédie québécoise, Tout stocké, de Manon Briand, qui peut avoir l'air comme... tout stocké, genre, faire des réserves de tout, mais c'est vraiment tous, espace stocké. Donc, on met notre toc de cuisinier sur la tête et on fait ça avec Julie Le Breton, le français Édouard Baer et plein de faces. Sylvain Marcel, une coupe d'humoristes aussi, parce que quand on a une comédie au Québec, on met des humoristes dedans. Oussama Farès, Doua Cachaché, Dominique Paquette. Et Julie Le Breton joue... une douanière dans un petit village frontalier au Québec, en banlieue de Montréal. L'espèce de petite douane que tu passes parce que tu dis que ça va aller plus vite que la grosse. Mais elle est stock-up en tabarouette, fait qu'on suit le protocole, on sourit pas. Même mes voisins de village, tu vas lâcher des clopes, tu me déclares tout, tu vas payer la taxe, etc.
Pas de
passe-droit. Mais pas très, exactement, elle n'est pas très, très appréciée dans le village. Fait que sa fille en subit un petit peu de pression à l'école. Elle se fait appeler la petite police. Puis sa fille, pour s'émanciper puis dire à toutes les autres, hey, vous allez me foutre la paix, s'inscrit à un concours de jeunes chefs cuisiniers. Et ce que le personnage de Julie, Sonia, apprend, c'est que c'est pas juste comme ah ouais, fais des beaux hot dogs, ça va être bon. C'est vraiment relevé comme plein d'affaires avec des enfants super élitistes. Là. Fait que là, faut que tu apprennes une recette de ton choix top bien, puis que tu sois aussi bon que les grands chefs internationaux et tout. Du Bocuse, hein, qu'elle dit. C'était la chimie alimentaire, lui, c'était ça, ces affaires-là. Puis, ça tombe bien. Elle venait d'avoir une altercation aux douanes avec un chef français maintenant établi à New York qui vient souvent à Montréal pour visiter sa fille et reconnecter avec. Puis là, lui, il transportait de la bouffe, puis des... j'oublie toujours les
truffes.
Les truffes, voilà, puis des couteaux, là, de ces couteaux affilés. Fait que là, une fois que lui, elle n'aura pas le choix, elle va rentrer en contact avec pour dire « Hey, sorry, not sorry, mais peux-tu m'aider avec ma fille et son concours? » Lui qui venait de se retirer de faire tout ce genre de concours, qui en a soupé de ces affaires-là et qui perdait toujours. Puis qui disait « OK, c'est bon, je vais être un coach, puis moi l'aider. » Mais là, dans tout ça, ils vont vouloir mettre la culture locale d'avant-plan, mais comme c'est la douanière stiff, ben personne l'aime, puis personne veut lui donner de ses produits, puis etc. Fait que ça va être dans cette espèce d'aventure-là qu'ils vont entrer, puis essayer d'embarquer tout le village avec eux et que tout le monde reconnecte avec leurs filles respectives. Bref.
Et on n'est pas dans la comédie romantique non plus à proprement dit, parce que la bande-annonce pouvait peut-être suggérer ça.
Mm-hmm, parce qu'on a une mère monoparentale, un père monoparental,
c'est etc. Effectivement. Donc, ce n'est pas au cœur de l'histoire, mais on est vraiment dans une comédie, je dirais même un peu familiale. Mm-hmm. Là, tu vois, c'est vraiment
les
pour
bons
tout, sentiments. Ouais, qui s'adresse à tout le monde. Puis, honnêtement, vous allez passer un bon moment. On ne réinvente pas la roue, mais il y a des bons moments, quelques bons gags aussi. C'est sympathique, c'est léger. Ouais. Fait que si vous aimez ce genre-là, vous avez besoin de tout ça cet automne.
C'est une bonne période pour le film, je pense. Ouais. C'est sûr que si on a trois week-ends super beaux où le monde en finisse sur leur terrain, ça ne l'aidera pas, là, mais n'importe quel week-end de pluie, je pense qu'il va avoir beaucoup de succès. Tu sais, c'est ça. Ça célèbre la richesse du terroir québécois, des façons de faire, c'est le côté... Je sais pas si c'est vrai, j'ai jamais habité en ruralité, mais ce côté très lié, mettons, là, de genre... Hey, à Granville, on va leur montrer, nous autres, tous ensemble. Là.
Sûrement que ça doit...
très sympathique aussi, le couple Emmanuel Bilodeau et Edith Cochrane qui font un couple d'agriculteurs bio
ouais,
alors qu'eux, dans la vraie vie aussi, sont, genre, sont tombés dans l'autosuffisance alimentaire avec leur famille, ont une émission là-dessus, sont souvent convoqués en entrevue. Mm. Je trouve ça quand même un beau clin d'œil d'avoir pris ce casting-là. T'sais.
Tout à fait.
Puis, à quoi je pensais où j'allais? Ben, c'est Manon Briand qui a fait le film, qu'on est comme, ça me dit quoi? Mais en même temps, c'est quoi? Ben Pauvel, elle fait partie un peu de Lynn Charlebois, de ces réalisatrices et cinéastes-là qui ont galéré avant d'avoir un nouveau projet qui soit financé puis qui puisse aller de l'avant. Elle a fait en 2012 Liverpool, que je disais que j'ai écouté d'entrée de jeu, qui était aussi une espèce de fable contemporaine un peu audacieuse, que je pense que ça n'avait pas tout à fait rencontré son public. Puis avant ça, La turbulence des fluides, qui avait quand même un bon succès, puis c'est comme 2002, justement, à peu près. Puis plusieurs films dans les années 90, un peu plus. Là. Mais, fait que, tu sais, trois films dans... un par décennie, là, depuis 25 ans.
Non, on a comme tendance à oublier, mais Manon Briand faisait partie vraiment de cette première génération-là de réalisatrices. Tu avais... c'est Micheline Langteau, Léa Pau, là, qui t'avait eux autres fin des années 80, début 90. Mais elle faisait, je pense, partie vraiment de la première génération de femmes qui avaient étudié à l'université, à la Concordia. Fait que t'étais dans la même gang que Villeneuve, André Turpin, d'ailleurs, elle faisait partie du collectif de Cosmos.
Okay.
Film de 96, là, où toute cette nouvelle génération-là faisait un petit segment de ce film-là. Fait qu'il y a eu comme 2-3 femmes, puis après ça, ils ont fait 2-3 films en l'espace de quelques années, puis on les a plus entendu parler depuis un certain temps. C'est comme un peu ironique, mais effectivement, pour ça, je suis content aussi de la revoir, finalement.
Ouais.
Comme Lynn Charlebois aussi, mais c'est quand même des femmes de grand talent. Là,
oui, oui.
Ils font de très bons films, puis je pense qu'ils méritent d'être revus. Il y a quand même quelques fun facts sur le film, parce qu'on a eu l'occasion, donc, ben moi,
oui,
de
ça.
L'interviewer pour le magazine, mais en plus... pour l'épisode spécial du balado.
Oui, qui est en ligne depuis hier. C'est en ligne au moment où vous écoutez cet épisode. Tu as discuté avec Manon Briand et Julie Lebon.
Pour le balado, oui, effectivement. Ouais. Donc, l'idée de ce film-là, tout stocké, c'est que Manon Briand est vraiment une amatrice de ces concours-là à la télévision. Ce genre d'émission-là, mais elle, en poussant ça encore plus loin, parce que il existe, c'est le... concours du métier de France, quelque chose comme ça.
Okay.
Ça, c'est comme vraiment les Olympiques de la cuisine. Là, fait que c'est pas Masterchef, c'est pas les chefs.
Il y avait un film de cuisine français il y a quelques années qui traitait de ça.
C'était pas Chocolatier.
Ouais,
c'est ça. Fait que exactement, dans cette table-là.
À la bonne étoile, je pense que ça s'appelait.
Ouais, fait que là, c'est la haute gastronomie française ou juste la façon de préparer, de présenter.
Ton tablier est mal noué puis tu te perds des points.
C'est fou, ouais, c'est ça. Fait qu'elle était vraiment fascinée par ces concours-là et est tombée sur un Québécois, Samuel Sirois, un chef qui avait participé, qui n'a pas gagné, mais déjà se rendre là, écoute, c'est fou. Fait qu'il s'est entraîné pendant plusieurs années pour y arriver. Et elle a contacté, il a d'ailleurs été consultant sur le projet et tout ça. Fait que c'est suite à cette rencontre-là là, qu'elle a décidé de tout mettre ça en place.
Oui, parce qu'à un moment donné, au début, elle fait juste des croquettes puis des affaires de même, mais les plats se relèvent, le niveau se relève. Sans spoiler, le fameux plat qu'elle fait à la compétition à la fin est comme exceptionnel. Je me demandais si c'était vrai ou faux. Puis...
écoute, l'idée, ouais.
Ben, j'allais dire, parce que j'ai écouté l'entrevue quand je l'ai montée. C'est qu'eux, ils disent, nous, c'est du cinéma, là. C'est comme la tu sais, quand tu vas au McDo, là, puis là, tu vois ton Big Mac,
ben
il est
parfait
sa photo, mais t'apprends qu'il est immangeable parce que non seulement ça fait 12 heures qu'il est sur le comptoir, mais il a été trempé dans tous les produits possibles pour avoir l'air parfait. Puis, là, c'est comme... Elle a dit, mais moi, il peut juste être beau, là, l'affaire, là, je m'en fous. Là. Puis lui, il était comme, non, là, t'engages pas un chef pour te faire un truc en papier mâché. Là.
Moi, faut que ça soit bon.
Faut que ça soit bon, puis ça marche pour vrai, mon affaire.
Tout à fait.
Ça se mange. Fait que c'est comme, OK, défi de plus. Fait que c'est vraiment un mec qui se monte. C'est comme, ah, c'est de la pure folie, là, ce truc-là. Genre.
Tout, vraiment, vraiment.
Ouais. T'as-tu déjà mangé ça, des truffes?
Non.
Moi non plus, je sais pas, non, mais c'est un, à l'enjeu du film, parce que comme il est français, il veut incorporer des truffes, c'est, ça vient de sa région à lui et tout, puis là, l'importation de tout ça, exactement, mais non, ben, je me souviens du film de Kim Nguyen aussi, là, Truffes, l'espèce de, pas post-apo, là, mais j'ai oublié comment on appelle ça, là, un futur dystopique un peu de, en noir et blanc, où il y avait des truffes au Québec, puis que Roy Dupuis et Céline Bonnier ramassaient ça, là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Mais non, jamais mangé d'affaires aux truffes ou quoi que ce soit. Je sais pas.
Ni de recettes Bocuse, je dois confesser.
Non, c'est ça.
Ouais.
C'était-tu ça aussi, c'était-tu à la Bocuse, là, le fameux... je suis pas très bon d'un grand restaurateur, là, mais El Bulli, là, c'était-tu ça? Un restaurant genre en Espagne, par contre, là, que fallait que tu réserves des années d'avance. Là. Il y avait eu des docus là-dessus, mais je sais pas si c'était cette méthode-là. Là. Il y a un temps, on parlait beaucoup de ça, là, la cuisine... Eh bien, chimique ou je sais plus trop quoi.
Ouais,
là,
moléculaire.
De... Moléculaire, c'est moléculaire, ça. C'est ça du Bocuse ou pas tout à fait, je pense?
Non, pas ce point-là, okay. Ouais. Je pense que Bocuse, c'était vraiment comme le premier chef de la haute gastronomie française, mais la cuisine classique française.
OK.
Je pense que le moléculaire est plus récent. Bocuse, moi, je pense que c'est vraiment plus vieux.
Ah, c'est que je mélange toutes ces écoles de pensée.
Mais on aurait peut-être quelqu'un pour répondre à toutes ces questions-là, parce qu'on va avoir un événement, si vous écoutez, de la région de Québec.
Oui.
Peut-être le mentionner quand même, mardi...
Le cinéma Le Clap.
De Clap, oui, de Loretteville, qui va être le mardi 17 septembre. Ouais, donc, c'est sûr que si vous écoutez le balado plus tard, mais pour ceux qui vont... tomber dessus dans les prochains jours. Donc, on va recevoir quand même le chef Jean-Luc Boulay de Québec ici, donc un des juges à l'émission Les Chefs, qui va venir participer à une question-réponse suite à la projection du film, donc de tout stocker.
Oui, c'est ça, sur les concours culinaires, comment ça se passe en cuisine.
Ben oui, alors lui, il est d'origine française, il est installé ici, mais c'est un,
qui
a cuisiné de la haute gastronomie française, fait que ça va être super intéressant, je pense, de l'entendre parler de tout ça.
Qui anime cette soirée-là?
Je sais pas.
Ah, ça pourrait être toi peut-être?
Je pense que oui.
Ah, OK, bon.
Ça ressemble
animé
à ça.
Par Patrick en chair et en os.
Il viendrait me saluer.
Hey, finalement, je reviens, on va boucler la boucle avant de terminer. Quand tu étais au TIFF, est-ce que tu l'as fait finalement mettre genre des chandails orange fluo pour qu'on te remarque plus puis des affaires de même ou t'es allé...
Ah non, il fallait être quand même pas tenu chic, là, mais tu sais, tenue de ville, c'est propre. Fait que j'avais même un veston par-dessus mes t-shirts. Là.
C'est ça, fait que t'aurais pas pu être en chandail jaune fluo,
je pense
tie-dye, checkez-moi.
Non, ça aurait mal paru je pense. Ouais, faut un certain décorum.
C'est ça. Mais les Converse rouges à la... genre René Dufort, peut-être.
C'est moins évident, je pense.
Quelque chose un peu chic, là, mais... Ou tu te fais faire à la... des fois, comme les sportifs professionnels et tout, là, un vrai saut griffé, mais genre turquoise, là. Fait qu'ils vont dire, t'es suit up, mais d'une couleur flashy, là, tu sais, comme des Eric Carlson, puis Piqué Souben, là, carotté, puis des affaires de même, t'sais. Ou Shane, c'était ça, comme il s'appelait, lui, qui a eu les Québécois, là, qui a coaché Boston, puis qui est à la... à CBC, la Hockey Night du Canada.
Don Cherry.
Don Cherry aussi. Là, avec des fort grosses dans le cravates. Là, aussi les cols de chemise là, extra gros, je ne sais plus comment on appelle ça. Là, c'est horrible.
C'est comme un double collet qui fait tout ton cou. Écoute, l'an prochain, je vais militer pour avoir au moins un T-shirt mon ciné.
Oui, on faudrait faire ça.
Ça
vaudrait la peine. Ça conclut ce balado. La semaine prochaine, le 20 septembre... gros mois de septembre, il y a beaucoup de films quand même. Transformer 1, entre autres, qui pique quand même ma curiosité.
C'est un film d'animation.
Ouais, c'est
en
ça.
Plus.
Je ne sais pas s'il va être un peu adulte ou très kid family friendly. Mm. Curieux de voir ça. Mais surtout, The Substance de Coralie Farja, qu'on a parlé il y a quelques semaines quand la bande-annonce est sortie. Je vais essayer d'écouter Revenge avant d'ailleurs. Des films de Weird, j'aime ça. J'ai noté aussi pour les fans, on n'en parle pas souvent, mais ressorti de Whiplash pour le 10e anniversaire déjà de ce film iconique de Damien Chazelle.
D'ailleurs, qui était projeté au TIFF pour le 10e anniversaire en compagnie d'équipe de films qui étaient là.
OK, Miles Teller aussi, peut-être.
Pas Miles Teller, mais tu avais J.K. Simmons, Chazelle était là.
Okay.
Puis c'est produit par Jason Reitman, que j'avais comme oublié. Puis évidemment, lui était sur place pour son film de Saturday Night Live. Mm-hmm. Fait qu'ils ont profité pour organiser.
Je sais pas si ça... je me souviens qu'à l'époque, puis je sortais de mes études en musique, puis je... Tu sais, j'avais trouvé ça... Il y a des choses qui sont grossies pour l'écran et tout, mais j'avais trouvé ça vraiment hot. Mais je ne sais pas...
C'est
over the top, mais c'est quand même très bon. Là. Ouais. Je vais essayer de le réécouter.
C'est quand même
beaucoup de projets de réécoute.
Oui, c'est ça. C'est quand même un drôle de choix de film pour un anniversaire, un 10 ans. Est-ce que c'est si iconique que ça? Je sais pas.
Des fois, c'est juste une question aussi. Est-ce qu'il a gagné des Oscars?
Je pense qu'il y a quelques-uns. Ouais. Je pense pour le
Il y avait
son,
des nominations, entre autres, mais...
Je pense qu'il a gagné pour le
son. La musique, peut-être, aussi.
Peut-être.
Non, il a gagné pour La La Land, son ami Justin, quelque chose. Mais, je sais pas. Des fois, c'est juste parce que le studio de production, lui, a comme rien. Puis comme, regarde, on va buzzer. Ou, tu sais, deux, trois places sont prêts à le prendre. Conversation avec le TIFF, hey, nous on aimerait ça faire une classe de maître, puis si tu le fais, ah ben si je le fais, ben d'abord on va l'offrir aux salles aussi, puis tu sais, etc. Fait que c'est des affaires de même. C'est pour ça que des fois il y a comme 18, pas 18, mais tu sais, 9 sorties un vendredi parce qu'il y a des affaires de même de trucs. Mais bref, contactez-nous d'habitude, écrivez-nous au balado@commercialmonciné.ca en attendant qu'on ait nos fameux médias sociaux, mais c'est sûr que si vous écrivez à balado, ben c'est directement moi qui prends les courriels, tandis que l'autre, ça sera peut-être plein de monde de l'équipe. Procurez-vous gratuitement encore notre magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Et pendant notre absence de podcasteur la semaine passée, ben le nouveau magazine avec Gilda Roy pour La Petite et le Vieux est tombé sur les rayons et les rayons numériques. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Sur ce, bon, vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, et puis s'il y a une personne qui se met à vous chanter Eternal Flame des Bengals, méfiez-vous d'elle.